c'est le 12e épisode de Il n'y a plus de papier, Mathieu.
T'as bien compté ?
Je crois, c'est pas le podcast anniversaire, c'est pas l'épisode anniversaire.
C'est le 13e qui sera l'anniversaire. Prochain. Qu'est-ce qu'on fera ?
Ben, je sais pas.
T'as préparé un gâteau ?
Un petit gâteau, ouais. Une petite bougie, voilà. On va souffler ça.
Remarque, un gâteau au micro, c'est pas terrible. Tu souffleras les bougies ?
Si, on pourra faire.
Comme ça, on souffle les bougies. Bon, il n'y en aura qu'une.
Bah, salut tout le monde, bienvenue dans Il n'y a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Mathieu.
Salut Adrien.
Ça va ?
Bah ouais. C'est bientôt l'anniversaire.
C'est bientôt.
Moi, je suis content. Bientôt du gâteau. Alors ce mois-ci, moi j'allais te dire, on n'a pas trop fait exprès, mais on va dire qu'on a fait exprès parce que comme ça on a préparé des choses. Hein. On va parler de personnages féminins et de l'écriture au féminin. Et bah oui, on est au mois de mars et le 8 mars c'est la journée internationale de la femme.
Ah oui, on a vraiment presque fait exprès.
Il y a des polémiques là-dessus, on va s'arrêter là-dessus tout de suite. On va dire que le hasard fait bien les choses.
Alors si notre podcast vous plaît, comme d'habitude, laissez-nous un petit commentaire et une note sur iTunes, ça nous aide vraiment beaucoup, ça donne de la visibilité au podcast et en plus ça prend quelques secondes à peine. Du coup on va vous lire quelques petits messages qu'on a reçus gentiment sur iTunes,
ouais, ça c'est plutôt chouette. Super commentaires, moi j'adore lire les commentaires, je suis comme John Auguste.
Ah, vas-y,
j'adore les commentaires.
Lâche-toi.
Alors Philbo nous a dit bravo pour vos podcasts, un grand plaisir à vous écouter, vous ainsi que vos invités. Ce retour d'expérience et les thèmes abordés sont très enrichissants. Bonne continuation à votre duo.
On a quelqu'un qui s'intitule HK, qui nous dit « Bravo les gars, votre podcast est super, à la fois drôle et instructif. Je le trouve même plutôt proche du scénariste que beaucoup de podcasts américains sur le même thème. Mille merci. » Et ben ça, c'est un super compliment.
Je sais pas toi, mais je rougis.
Oui.
Vous. Je suis gêné. Alexis CV nous dit « Mille merci pour votre podcast, ça fait déjà 2000 merci. Le véritable petit univers qui se met en place au fil des épisodes donne un bel aperçu du métier. Ce podcast est indispensable pour tous ceux qui veulent se lancer. En plus d'être motivant, vous procurez de la confiance. » Eh ben.
On précise bien qu'on n'a pas payé ces gens, pour
non,
dire, ben, c'est important.
Tu l'as fait toi, non ?
Je crois pas.
J'ai oublié d'envoyer le chèque ce mois-ci.
On a Rachou qui nous dit « Podcast au top, c'est intéressant, il y a beaucoup d'infos, c'est pas prise de tête, une bonne ambiance, pourvu que ça dure, merci à vous. » Eh ben, merci surtout à vous. On remercie également nos tipeurs du mois, merci Billy qui nous dit « Hyper intéressant, merci ».
Merci Hussein.
Merci Sovan.
Merci Ari et François.
Merci Benjamin.
Merci Daniel.
Et merci Pascal.
Et merci Marianne.
Et si comme eux, vous voulez nous soutenir financièrement pour le prix d'un café, le lien vers notre page Tipeee, qui est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu comme nous, est dans la description de ce podcast.
Super, tu fais ça
voilà,
bien.
C'est facile, oui, je suis habitué, je suis rodé maintenant.
Ouais, ouais, moi je lis le truc, là je te suis, ok.
Eh bien, nous sommes ravis de vous présenter ce mois-ci nos trois invités du mois.
Alors, on invité EES.
Invité, ouais, timide, ouais, tout à fait. Je rougis encore plus parce que nous avons Claire Barré, qui est scénariste, romancière et formatrice. Salut Claire.
Salut Adrien, salut Mathieu.
Salut.
Eh bien, je suis très ravi parce que c'est toujours, enfin, c'est un plaisir de te retrouver en tout cas.
Mais pourquoi ouais, Adrien ?
On s'est dit que ça faisait six ans qu'on ne s'était pas vu.
Ah. Eh ouais.
Et on s'est vu parce que Claire était ma formatrice lors du Master Pro scénario. Voilà.
C'est émouvant.
Et
c'est
à Nanterre. Oui, à Nanterre, tout à fait.
Eh ouais.
Nous avons Nathalie Lenoir, scénariste, réalisatrice, ainsi que la plume derrière le site scénario-buzz.com. Salut Nathalie.
Bonjour messieurs.
Ça va ?
Bah ouais.
Tu sembles super à l'aise, c'est très chouette de le voir.
À la cool.
À la cool.
Voilà, c'est exactement l'idée du podcast. Et on reçoit aussi Anna Marmiès, qui est scénariste et membre des Lecteurs Anonymes. Salut Anna.
Salut.
Ça va, on n'a pas dit de bêtises pour chacune d'entre vous ?
Bah non, tout va bien. Sinon on cogne, t'inquiète pas.
Ok. Bon bah,
je préparer une pare-balles.
Je vais me méfier quand même. Alors, on va faire un petit tour de table pour connaître un peu mieux nos invités et savoir sur quoi elles bossent en ce moment. Claire, sur quoi tu bosses en ce moment ?
Alors, j'ai beaucoup de travail. Je développe pour l'instant trois scénarios de long métrage qui vont être respectivement réalisés par Marc Lavoine. On a coécrit l'adaptation de son livre, L'homme qui ment. Un réalisé par Fabienne Berthaud, qui est autour du chamanisme en Mongolie. Et le dernier avec Anne Fontaine, qui est une adaptation de roman. Et sinon, je travaille aussi sur l'adaptation en 5 fois 52 minutes ou 60 minutes de mon premier roman, Ceci est mon sexe, avec Jimmy Desmarais, le producteur d'Atlantique.
Et on aura l'occasion de reparler de ce livre tout à l'heure, j'en suis sûr.
Claire. Sans doute.
Chouette, bravo.
Merci.
Nathalie, sur quoi tu bosses ?
C'est tout ?
Non, en fait, j'ai oublié des choses.
Et Nathalie, alors, sur quoi tu bosses en ce moment ?
Alors moi, en ce moment, je suis une auteure bipolaire, c'est-à-dire que j'écris une comédie gros budget pour un producteur. Et en parallèle, je développe mon premier film en tant que réalisatrice, et qui, pour le coup, est petit budget, film d'auteur. Donc en fait, je travaille dans aux deux antipodes.
Les deux extrêmes.
De l'industrie du cinéma français.
C'est bien, c'est un gros spectre.
Bah, c'est assez marrant surtout de faire les deux en même temps. C'est assez instructif.
Tu passes de contraintes. Voilà. Il y a de l'argent et il n'y en a pas. Ça se crée différemment, j'imagine.
Bah, projet personnel, pas personnel.
Non, en fait, c'est vraiment deux projets personnels, ah oui. Puisque c'est moi qui ai initié les projets dans les deux cas.
super.
Mais effectivement, les contraintes sont différentes, les enjeux. C'est assez passionnant, en fait, d'avoir la chance de faire les deux en même temps.
Et bah, très chouette.
Super.
Anna, sur quoi tu bosses en ce moment ?
Moi, en ce moment, j'ai vachement de fiches de lecture à faire. Hein, donc, voilà, demandées par différentes sociétés, distribution, production, etc. Et donc, entre deux fiches, j'essaie d'écrire mon second court-métrage. Voilà, c'est le début.
Comment ça, tu essayes ?
J'écris mon second court-métrage.
Attention, hein !
Fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai.
Comme Yoda.
Voilà, comme dirait Yoda. Super, ça bosse, ça bosse.
Alors, le sujet du mois, les personnages féminins. Chers amis, IES. Je vais lancer ma première question naze. Hein, parce que
à chaque fois, on va le faire. IES, IES. On va souligner le fait qu'il y ait des femmes. Je pense qu'on se met la pression pour rien.
Oui, hein, oui.
Ce sont des gens comme nous. Nous sommes tous des
non,
êtres humains.
Pas tout à fait, quand même.
Alors, pour vous, qu'est-ce qu'un bon personnage féminin ? Je sais que c'est une question qui...
À chaque fois, on commence par la question du bac, voilà, truc de base, t'as 4 heures.
Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est mérite d'exister ? Claire.
Disons que moi, j'ai l'impression, malgré tout, qu'un bon personnage, c'est un bon personnage. Qu'il soit masculin, féminin, que ce soit un extraterrestre, que ce soit un éléphant, une théière, un personnage doit exister, doit provoquer l'empathie. Il faut qu'on y croie, il faut qu'on arrive à s'identifier quelque part à ses enjeux, en tout cas, au minimum. Et voilà, et après, bon, c'est un homme, c'est une femme, bien sûr, mais je pense qu'il faut les construire avec autant de d'exigence et un souci d'authenticité. Et voilà, donc un bon personnage féminin, ce serait un bon personnage déjà, il me semble.
Et bah, moi, je plussois complètement, mais j'ajouterais qu'un bon personnage, c'est un personnage qui a des défauts. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu mon fer de lance, mais c'est assez difficile à faire passer sur notre sol, parce que c'est justement par ces défauts qu'on va s'identifier, qu'on va avoir de l'empathie pour ce personnage.
Quoi, les femmes ne sont pas parfaites ?
Et donc, les femmes sont parfaites, mais aussi dans l'incarnation de leurs défauts.
Waouh ! Ah oui, ça commence fort. Hein. on a les belles phrases, et puis on a aussi quand même la théière, le personnage de théière.
Et ben oui, vous avez vu La Belle et la Bête.
Exactement.
Ouais, alors, moi je suis entièrement d'accord. Pour moi, effectivement, je pense pas qu'il y ait d'essence de l'homme et d'essence de la femme qui soient fondamentalement différentes. Et donc je pense que c'est la même chose pour les personnages. Alors ce qui est bien sûr différent chez les femmes et les hommes, c'est sans doute les expériences qu'elles vivent ou qu'ils vivent dans la société qui sont différentes du fait, voilà, de la place. Voilà, je vais pas rentrer dans un grand discours féministe, mais.
Tu peux.
Donc forcément, parler d'un personnage féminin, c'est différent que de parler d'un personnage masculin puisque les expériences sont différentes. Mais sur la question de la caractérisation, ça me semble. Enfin, ce qui est important, c'est de créer un bon personnage avec, comme disait Nathalie, des défauts, etc. Mais à mon avis, il n'y a pas d'essence différente.
En parlant de défauts, ou peut-être de mauvais défauts qu'on voit un peu trop souvent, est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent, des clichés des personnages féminins, qui vous énervent vraiment à chaque fois
par exemple,
on a quelques heures pour...
on a le temps.
On a relevé des exemples.
La backstory du viol, par exemple, voilà. Qui apparemment est quelque chose qui revient très souvent pour expliquer le traumatisme d'un personnage.
Voilà, c'est pour justifier le parcours personnel d'un personnage, et souvent aussi pour justifier le parcours personnel d'un personnage masculin, puisque le personnage masculin va venger, etc. Enfin, il y a vraiment des réflexes comme ça, de scénario.
Alors, il y a des réflexes, en effet, et qui peuvent peut-être être faits de manière caricaturale et non incarné, on va dire. Mais cela dit, il faut quand même dire que dans la société, il y a beaucoup de viols.
Bien sûr.
Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est complètement fabriqué. Mm-hmm. C'est quelque chose qui existe, la violence envers les femmes, mais aussi envers les hommes, de toute façon, puisque les femmes ne sont pas les seules à être violées, bien entendu. Mais ça reste quelque chose qui peut être vrai. Voilà, en fait, tout dépend toujours, à mon avis, de la manière dont on traite les choses. Il faut les traiter avec un minimum de profondeur, et essayer de se poser les vraies questions. Alors c'est vrai que si ça devient un cliché et un réflexe et que ça n'est pas creusé, ça devient tout d'un coup complètement absurde, ou alors ça n'a aucun intérêt. Mais aller chercher les blessures des personnages, c'est quand même a priori aussi une bonne approche. C'est-à-dire qu'en effet, on parle des défauts, on parle aussi des failles, on parle de tout ce qui retient un personnage, de tous ces freins qui viennent, bien entendu, de choses de son enfance, de sa jeunesse, qui l'a transcendé ou non, qui l'a transformé ou non. Et voilà, donc après, je pense que tout est toujours dans la manière de faire les choses et de les creuser.
Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu vois, que tu lis ou que tu regardes tout simplement, des personnages que tu te dis « Ah non, ça va pas, c'est trop cliché, ça serait bien de sortir de ça »
Disons que oui, mais enfin régulièrement et toujours, depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la bonne et de la mauvaise fiction. Et à partir de là, voilà, j'ai l'impression que dans la bonne fiction, quelle qu'elle soit, d'ailleurs que ce soit des romans, du cinéma, des séries, etc., il y a toujours justement cette espèce de plus dans les personnages qui fait qu'on s'y attache vraiment, qu'on s'y accroche vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup sonne vrai. Et après, bien bien entendu, des choses qui sonnent faux, il y en a 12 000. Mmh.
Sur les personnages féminins comme sur les personnages masculins.
Ah bah, bien sûr.
Nathalie, tu voulais, tu veux l'antenne pendant une heure?
Oui, non, bah. non, et effectivement, peut-être là où on peut noter une différence dans le traitement des personnages féminins ou masculins, c'est un problème de moralité. J'ai l'impression, et de crédibilité aussi. C'est vrai que c'est encore plus difficile de trouver, notamment en France et sur le petit écran, des personnages qui de femmes qui ont des comportements, par exemple, qui sont infidèles, qui sont des mauvaises mères, mais pas dans le sens comique, on va dire, par exemple, des mères négligentes ou des femmes violentes. Ça, c'est vraiment, on se heurte à des tabous.
C'est encore trop lisse, tu veux dire ?
Ah ouais, c'est complètement lisse, et surtout, je trouve que il y a vraiment un problème, enfin il y a un manque de résonance entre ces personnages et la société, tout simplement. J'ai le sentiment, en tout cas, que c'est peut-être plus sensible dans le traitement des personnages féminins.
Alors c'est quoi ? C'est les auteurs qui osent pas ?
Non, c'est pas les auteurs qui n'osent pas.
Qui sont bridés ?
C'est la censure.
Oui, il y a quand même toujours un lissage qui s'effectue. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette image quand même de la femme douce, un peu passive, un peu voilà, et soumise, plus ou moins en tout cas, à certains codes. Et quand on essaye, c'est vrai, la plupart du temps, de s'en éloigner, particulièrement aussi au niveau de la sexualité un peu libre, des choses comme ça, c'est remis un peu dans les rails. Après, je pense que c'est quand même plutôt à la télévision, parce que c'est pas forcément partout pareil non plus, et on a aussi quand même des grandes libertés pour créer des personnages féminins ailleurs.
Bah, disons que c'est effectivement c'est assez propre à la télévision ou au cinéma mainstream.
Oui,
c'est vrai que dans le cinéma d'auteur, on a quand même encore une grande liberté et une grande modernité. Mmh. Mais dès que le budget du film grimpe, ça devient on revient à des problématiques de télé, en fait.
Quoique, quand même, moi, ou alors peut-être, oui, vraiment le cinéma grand public, mais sinon, quand même, dans des films avec un certain budget, etc., il y a quand même des réalisatrices et des réalisateurs qui imposent des personnages, justement, qui changent, qui ne sont pas dans ces codes-là, et ça passe bien, et il y a des financements, et donc c'est encore possible, mais je pense que c'est malgré tout une lutte, c'est-à-dire qu'il faut aussi rester vigilant et rester en éveil. Qui c'est qui disait ça ? C'était Josh Whedon, je crois, le créateur de Buffy, qui disait « Pourquoi est-ce que vous faites toujours des personnages de femmes fortes, etc. ?» Et il répondait « Parce que vous me posez encore la question. Mm-hmm. » Et voilà, et donc je pense que c'est aussi dans ce qu'on initie, nous, en tant qu'auteurs, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais moi, je pense qu'il faut faire la même chose pour les personnages masculins, encore une fois. Je crois que c'est pas non plus... Je crois qu'il faut travailler ces personnages de toute façon.
C'est le problème du mauvais personnage.
Bah oui.
Bah oui.
Ouais, on en revient toujours là.
Oui, c'est
mais
ça,
je pense qu'on peut, subvertir les choses et aller vers des personnages féminins comme les décrivait Nathalie. Je pense qu'il y a effectivement une espèce d'un peu de censure de la part des studios, des télés, etc. Mais je pense aussi que les auteurs... Enfin, qu'on a des réflexes et des fois, on ne se rend pas compte que c'est des réflexes, en fait. Et je parle de moi, mais je parle de tous les auteurs en général et tous les auteurs que je lis ou je hurle derrière mon écran parce que c'est des choses qu'on...
On va y venir.
des choses qu'on... Voilà, on imagine un personnage féminin et forcément, il sera un peu plus passif, etc. Et il faut réussir à remettre en cause tous ces trucs qu'on a emmagasinés, voilà, de sociétalement, etc. Et c'est, en fait, c'est pas évident, quoi.
Justement, alors, Anna, toi, tu es lectrice. Tu as fait une petite étude statistique. Quels sont les clichés sur les femmes que tu constates le plus? As-tu des facepalms mémorables?
Alors, pour parler justement un peu de cette étude, donc, je l'ai faite pour le site des lecteurs anonymes, donc lecteuranonyme.org, je fais un peu de pub.
Oui, non.
On avait en fait récolté, arbitrairement, on a choisi 200, parce que c'était quand même très long à faire, c'est moi qui m'en suis occupée, 200 descriptions de personnages dans des scénarios français. Donc, on avait pris 100 personnages masculins, 100 personnages féminins.
Sur quelle période?
C'était des scénarios qui... Donc, c'était en juin dernier, et c'était le scénario d'un an à peu près avant ça. Et du coup, j'avais essayé de voir de quelle manière les personnages féminins et les personnages masculins étaient traités différemment. Donc, alors, je vais un peu vous faire un résumé de mon étude. Et la question de l'âge, donc j'avais fait une moyenne de l'âge des personnages dans les scénarios. Donc les personnages masculins ont 40,8 ans en moyenne, tandis que les personnages féminins ont 34,4 ans. Elles sont toujours plus jeunes.
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que
sur la question,
jeunes.
Les femmes à partir de 40 ans et puis après à partir de 50 ans au cinéma, il y a moins de rôles, toutes les actrices le disent, etc. Donc ça me paraît clair que dans les scénarios, ça indique ça aussi. Ce que j'avais noté qui était marrant, c'était la description des traits physiques. Par exemple, les cheveux sont décrits 25% des fois chez les personnages féminins, alors qu'ils ne le sont que 13% chez les personnages masculins. Voilà, on parle plus des caractéristiques physiques des personnages féminins. On avait aussi, ce qui était marrant, c'était la question de la beauté et de la laideur. En fait, la question du jugement de valeur porté par le scénario, c'est-à-dire par le scénariste quand il écrit, sur le physique en fait, du personnage. C'est-à-dire, est-ce qu'on va écrire Sylvie, 35 ans, une jolie femme ? Bon, ben, visiblement, oui, dans 57% des cas, on porte un jugement de valeur sur le physique du personnage féminin, contre 19% pour les hommes. Donc ça, je trouve que c'était vraiment le truc le plus frappant dans cette étude, c'était ça.
Bon, on peut se demander aussi si c'est pas intéressant, si on veut un acteur qui s'intéresse à notre personnage, de le mettre en valeur dans sa description physique aussi, pour que le potentiel cast s'identifie en
fait,
disant
mais
oui,
coup,
bah oui,
pourquoi,
moi je suis beau, je suis...
Pourquoi y a-t-il besoin de plus le dire pour les femmes que pour les hommes ?
Ouais, et après je me demande si c'est vraiment ça que va privilégier un acteur pour faire un choix de rôle. C'est quand même avant tout ce qu'il a à défendre, le parcours du personnage. Et pour une femme c'est pareil, pour une actrice c'est pareil en fait. C'est plus peut-être pour... Je sais pas en fait pourquoi c'est comme ça. À mon avis c'est très ancré dans la société, que ce soit l'âge des femmes ou que ce soit leur beauté ou que ce soit... C'est parce que c'est aussi comme ça qu'on a tous été élevés, ce sont vraiment des codes culturels qui viennent de très très loin et qui sont très ancrés. Et à partir de là, c'est peut-être sans doute pour ça que ça se reflète aussi dans tout ce qui est écrit, scénario compris.
Mais grâce à ce podcast, dès aujourd'hui, ça va changer.
Mais j'espère.
On espère.
Dès demain en tout cas.
On est naïf. On fait le point dans un an.
Ouais, chiche.
Bon bah Anna, t'auras encore 200, on te réinvite dans un an.
Je referai dans un an, voilà. Et j'espère que ça aura évolué en termes de pourcentage.
D'accord, donc bon, c'est des mauvaises habitudes au final, on en reste là-dessus.
Ouais, et je pense que c'est à la fois aux producteurs, etc., mais aussi aux auteurs de travailler sur leurs propres réflexes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'ai envie d'écrire moi tel personnage, belle femme de 45 ans, ben je raye belle quoi, je me force.
Ou alors, il faut aussi que les hommes soient beaux, tout le monde doit être beau
voilà,
en fait, c'est ça.
Voilà,
Est-ce que c'est vraiment le critère principal pour choisir les acteurs ? Est-ce que c'est la beauté ?
Alors comment vous présentez vos personnages du coup ? Si vous avez des souvenirs, est-ce que vous avez mis ce mot beau, belle, est-ce que ça revient ?
Moi, je décris jamais physiquement les personnages.
C'est un choix.
Moi, je me dis, après, c'est parce que je suis réalisatrice aussi, donc je me dis, ça va m'enfermer dans un truc du personnage pour le casting. Donc moi, je dis l'âge et c'est tout. Mais après, c'est ma manière à moi de lutter contre des réflexes, mais c'est pas forcément la bonne.
Est-ce que les femmes sont plus jeunes que les hommes, alors, du coup ?
Alors, je crois pas, je vais y réfléchir, merci, j'ai pas fait mon auto-analyse.
Moi, j'essaie de les décrire en action, en fin de compte, de manière à ce qu'on les découvre par leur tic, par leur vêtements. C'est vrai que je décris beaucoup plus, je pense, la tenue que le physique en tant que tel, sauf quand c'est vraiment indispensable pour la caractérisation du personnage, ce qui peut quand même arriver.
Oui, ça arrive. Bien sûr.
Voilà. Mais c'est vrai que j'essaie aussi de m'enlever, comme disait Anna, les réflexes qu'on a tous. Et c'est vrai que plus on travaille, c'est terrible, mais plus on se rend compte qu'on est un peu conditionné aussi, parce qu'on sait, inconsciemment ce qui va se vendre ou pas, ce qui va passer ou pas. Et ça devient, en fait, ça devient contre-productif, puisque si on se laisse happer par ses réflexes, on propose plus de choses, justement, qui sortent du cadre.
On se surprend à faire une description qu'on n'aimerait pas que les autres lisent. On se dit, je peux pas écrire ça, et hop, on corrige avant que...
Donc en fait, on s'auto-flagelle beaucoup en tant qu'auteur, avant de rendre nos textes.
Claire, tu voulais réagir ?
Non, je sais pas, il faudrait que je me relise pour savoir dans les scénarios, en tout cas, comment je présente les personnages. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était le charme qui était le plus important et que, voilà, est-ce que les personnages en ont ou pas ? Est-ce qu'ils sont, magnétiques ou pas ? Et en effet, c'est bien entendu par leur action et leurs interactions avec les autres qu'on va forger le caractère d'un personnage plus que par ses traits physiques qui, encore une fois, on s'en fout tant qu'il n'y a pas les comédiens. Alors,
bien
parfois,
sûr.
On écrit pour les comédiens.
Oui, c'est ça, en fait.
Là, c'est encore différent et c'est très agréable comme exercice parce que du coup on les voit, on entend leur voix, on voit leur corps, on voit leur visage, on voit tout et du coup ça s'incarne à merveille. Et quand on n'a pas les comédiens, en fait, après ça, il faut quand même que ça reste suffisamment ouvert pour que ce soit un bon comédien, une bonne comédienne qui ait envie de jouer le rôle. Et après la beauté reste accessoire, à part si encore une fois ça fait partie de la caractérisation du personnage.
Alors du coup Anna, est-ce que tu as relevé des choses affligeantes? Est-ce que tu as des exemples mémorables de femmes très mal décrites ou des choses à ne pas faire
autre chose,
et les noms des auteurs?
Ouais, en fait, on dit jamais qu'un personnage féminin est laid. Très rarement pour les personnages masculins aussi, mais encore plus rarement pour les personnages féminins. Mais on dit des trucs, par exemple, elle a un gros chignon, elle est serrée dans un col Claudine, je cite. Elle porte une longue jupe grise, enfin des trucs vraiment, on a compris quoi, qu'elle était moche.
Eh bah.
Il y a des choses marrantes aussi.
Elle a des J'avais lunettes noté que
c'était l'histoire de la barbe.
Oui, sur les hommes, ça m'a surpris. Hein.
Il y a donc 6% des personnages masculins qu'on a analysés portaient la barbe.
Hirsute,
on caractérisait les personnages, on mettait qu'elle était hirsute, de plusieurs jours, poivre et sel, mal coupé, c'est des trucs qui caractérisent les personnages. Parce que ça, c'est pas mal.
Toi, Mathieu, ça te plaît, toi, toi qui es fétichiste de la barbe, Adrien.
Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait le terme buriné, donc l'idée qu'un personnage est usé par la vie, etc., qui revient quand même 5 fois, donc sur 100 descriptions, j'étais bon, c'est pas buriné. Mal. Contre évidemment 0 fois chez les personnages féminins, parce qu'une femme burinée, on ne voit pas trop ce que ça veut.
Alors qu'il faudrait arriver à ce qu'il y ait des femmes burinées, là, peut-être que justement, on arriverait à autre chose.
Ou burné aussi.
Pourquoi pas ? Ça arrive, ça existe.
Alors c'est drôle parce que je lisais un Styliste du 15 décembre 2016. Styliste, c'est un magazine qu'on donne à la sortie du métro. Et il y avait un article assez chouette qui s'appelait Unlikable Woman, ou la femme dite déplaisante, et qui raconte un petit peu ce terme qui est revenu à la mode pour caractériser ces femmes un peu trop indépendantes. Donc ça a été donné à un genre de comédie dès 2013, et produite par des studios qui avaient intégré davantage des premiers rôles féminins dans leur fiction. Et là, on a découvert un peu des personnages névrosés, égocentriques, alcooliques, arrivistes, manipulatrices, dépressives.
Un peu trop indépendantes. Est-ce qu'on peut être trop indépendant ?
C'est la question. Et alors, du coup,
quand on est femme, oui.
Ah ouais.
Cet article racontait l'exemple du personnage de Skyler White, interprété donc par Anna Gunn dans la série Breaking Bad, ce personnage a déclenché un shitstorm. Alors, désolé pour le mot anglais. Un shitstorm d'insultes alimenté par des groupes Facebook. Alors, j'ai halluciné, comme ça s'appelle I hate Skyler White ou fuck Skyler White. Voilà, juste parce que ce personnage, visiblement, ne suivait pas son cher et tendre mari qui répond au doux nom de Walter White et qui est donc dealer quand même, il faut le rappeler. Et du coup, moi, ça m'a choqué. J'étais là, waouh! Alors que le personnage est génial, c'est super bien, enfin, il n'y a rien à dire. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
C'est assez frappant cet exemple, parce que c'est vraiment en plus un personnage qui aurait dû, à mon sens, susciter beaucoup d'empathie. Par son parcours dans la série, on la découvre déjà dès le premier épisode comme une femme qui est dans la désillusion totale quant à son mariage, quant à justement l'homme qui est devenu Walter, qui est vraiment un gros loser, mais sur toute la ligne. Alors qu'il me semble, elle était présentée comme son étudiante, en fait. Donc elle avait vraiment... on sait que dans leur backstory, justement, c'était un homme qu'elle admirait énormément.
À une époque où il était entrepreneur,
il avait eu cette fameuse idée qui s'est fait faucher. Donc effectivement, c'est une femme vraiment qui est dans des difficultés de couple, des difficultés économiques, je dirais même en crise de la quarantaine, enfin qui est vraiment dans la souffrance en fin de compte dès le premier épisode, et qui va effectivement subir de front aussi la maladie de son mari, parce que c'est vraiment une punition de couple. Et en fin de compte, effectivement, elle a un parcours vraiment assez... finalement, elle évolue peut-être encore plus que lui au cours de la série. Mais je pense qu'elle, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, elle franchit des caps qui sont tabous. Elle est infidèle, par exemple. Alors, sans savoir que Walter a fait des vilaines choses, on va dire, donc ça passe pas. Elle fait des choix, effectivement, qui sont toujours surprenants et très justes. Justement, que ce soit quand elle décide de l'accompagner dans ses péripéties ou au contraire de prendre du recul. Et en fait, quoi qu'elle fasse, effectivement, on a pu constater que le public, enfin du moins qu'une partie du public n'adhérait pas du tout. Je pense tout simplement parce qu'une femme... sociétalement, n'est pas censé se comporter comme ça dans l'esprit de ces personnes.
Je connais pas l'exemple de Breaking Bad que je n'ai pas vu, j'ai un peu honte. Mais
alors, on va couper tout de suite.
Enfin, un petit récap.
Merci Anna d'être venue. La porte se trouve là-haut.
Non, ce qui est intéressant, c'est que ces shitstorms, comme tu disais, ils existent pour des personnages qui, effectivement, brouillent les codes de genre subvertissent un peu ces codes-là. Mais il existe aussi pour des personnages qui sont dans ces codes. Par exemple, moi, ça me fait penser à toute l'histoire autour du personnage de Sansa Stark dans Game of Thrones.
Ah, là, c'est moi qui n'ai pas vu.
Donc, je vais essayer de ne pas spoiler, mais je vais juste parler du personnage.
Tu peux spoiler, en fait, j'ai essayé, mais j'ai
pas... Ah, ça ne t'intéresse pas, très bien. Donc, Sansa, il y a deux sœurs, en fait, Sansa et Arya. Arya, elle est badass, elle, pour le coup, elle subvertit les codes de genre, elle s'habille en garçon, elle veut se battre, etc. Tandis que Sansa, elle est plus dans les codes de la féminité classique, elle veut s'émanciper, c'est dur, parce que voilà, elle est dans un monde où ce qui est dur pour les femmes, mais par des choses qui sont plus attendues de sa part. Et ce personnage a été vachement détesté, j'ai toujours été frappée par ça, par le fait qu'il restait dans les codes de la féminité, alors que dans Game of Thrones, tous les mecs étaient fans de Arya parce qu'elle est comme un mec. En gros, fans de ceux qui sont comme des mecs, entre guillemets, comme on imagine des mecs. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de gagnant dans l'histoire. Enfin, dans tous les cas, les personnages peuvent être dépréciés.
Juste parce que c'est une femme, finalement ?
Bah, des fois, on dirait, ouais.
Ouais. C'est un peu la sale tendance qui ressort ces derniers temps sur Internet. C'est la montée d'un sexisme assez pourri.
Ouais.
Malheureusement, Internet permet ça, d'avoir des déferlantes de haine un peu gratuites et bien anonymes. Raisons très, très nulles.
Voilà, et clair. Qui frappent sur tous les fronts, on va dire. Hein, parce que le racisme, l'homophobie... Ouais.
Oui, là on reste sur des personnages de fiction, c'est encore gentil.
Oui, oui, oui. La haine qui se déverse, c'est malheureusement sur beaucoup de thèmes.
Ce que ça révèle peut-être, c'est que les personnages de séries, surtout les séries anglo-saxonnes, en fait, créent vraiment une addiction aussi chez le public. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que les spectateurs se projettent beaucoup dans ces personnages. Et c'est peut-être pour ça que quand ils sont déçus, ils se permettent aussi d'exprimer une parole qui aurait dû rester dans leur salon. Mais en tout cas, c'est ce qui est assez frappant, en fait, c'est justement le pouvoir de ces personnages. Et je pense que c'est parce qu'ils ont justement cette valeur sociétale que l'auteur aussi a la responsabilité de les rendre modernes, surprenants, comment dire, uniques.
Ça rejoint un peu les fans qui sont tellement fans quand quelque chose ne leur plaît pas, par exemple la fin d'une série ou d'un épisode, ils font tout pour exprimer leur mécontentement. Et on a vu ça dans le jeu vidéo aussi, où une fin a été changée parce que les fans se sont insurgés. Et malheureusement, après chacun son avis, mais malheureusement... Enfin, je trouve que si on cède à ça, c'est un peu dommage aussi, parce que tu tiens pas ton propos, et finalement, qui est maître du truc, on sait pas trop. Alors, bizarrement, on n'a rien entendu sur... On n'a pas de groupe Facebook sur Candice Renoir.
c'est étrange.
Non, de choses comme ça. Ou alors, on n'est pas au courant.
C'est comme tu dis, les séries anglo-saxonnes.
Fuck Candice Renoir.
Voilà. On va lancer ça aujourd'hui.
Candice, elle est assez emblématique, justement, de ce qui se passe en télé française. C'est-à-dire qu'il y a, pour le coup, beaucoup de personnages féminins. Parce que l'audience est principalement féminine, ce qui devrait être une bonne chose a priori, mais on nous sert des personnages qui peuvent être très sympathiques, mais qui ne sont pas du tout réalistes, ni modernes.
C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que toi tu...
C'est-à-dire que ce sont des femmes qui n'existent pas. Tout simplement, elles sont rigolotes, elles peuvent être maladroites. Alors déjà, leurs défauts sont quand même plutôt gentils, mais surtout, c'est des femmes qui n'existent pas dans la vraie vie, qui ne sont pas, enfin, de même que tous les personnages en général de fiction. Des problèmes qui ont rarement des problèmes d'argent, qui ont rarement des problèmes de harcèlement dans la rue, de vrais problèmes avec leurs enfants, toutes les choses auxquelles on est tous confrontés. Un moment ou un autre.
Alors, je voulais un peu revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous nous aviez dit que finalement, il n'y avait pas vraiment de bons personnages féminins. Il s'agissait plutôt de bien écrire son personnage. Mais est-ce que vous pensez que le genre du personnage influence l'histoire qu'on est en train de créer ou d'écrire ? C'est encore une question à 5 euros, ça. Je sais, je suis désolé.
ça dépend des histoires.
Ça dépend.
Mais c'est vrai qu'en général, quand même, quand on raconte une histoire, on sait instinctivement si c'est l'histoire d'une femme, d'un homme, d'un couple, d'un enfant, même de la tranche d'âge, je dirais. Est-ce que c'est l'histoire d'un vieil homme ? Est-ce que c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans ? Est-ce que c'est... Et oui, en effet, en général, le sexe du personnage arrive assez rapidement. Mais je crois que c'est déjà arrivé que des gens interchangent finalement pour des questions de... Donc, après, un bon personnage, encore une fois, voilà, c'est ça. Il faut qu'il ait un moteur, il faut qu'il ait un enjeu, il faut qu'il ait quelque chose à découvrir sur lui-même, sur les autres. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi personnellement, quand j'écris une histoire, je connais le sexe de mes personnages.
Je suis entièrement d'accord. Et pour rebondir justement à ce que tu viens de dire, il y a une grande mode aux États-Unis actuellement pour redonner de la place aux personnages féminins, de féminiser des scénarios qui, à la base, étaient écrits pour des hommes. Et selon moi, c'est vraiment une très très mauvaise idée.
Oui.
Parce qu'effectivement, comme disait Claire, le personnage est imbriqué dans une histoire, il a un point de vue. Et forcément, il va être différent selon son âge, son sexe. Donc effectivement, ce petit tour de passe-passe, ça crée aussi des personnages, certes féminins, mais génériques.
Génériques, ouais.
Et c'est, à mon sens, c'est vraiment pas une bonne idée.
Ça peut aussi sauver une histoire que tu n'arrives pas à mener jusqu'au bout, et peut-être qu'en changeant le sexe du personnage, ça redonne une perspective complètement nouvelle.
Il faut vraiment repenser le...
Voilà, il faut repenser tout, parce que ce n'est pas juste une inversion mécanique, on va dire.
Dans l'idée de ça te fait repenser complètement ton histoire, et ça peut peut-être amener des choses encore meilleures. Et...
Tout à fait.
Ça peut être une solution.
Anna, est-ce que tu voulais rebondir ?
Non, mais je suis d'accord, effectivement, du fait que les expériences des femmes et les expériences des hommes sont différentes dans la vie, forcément, elles sont dans les scénarios. Les femmes subissent plus de harcèlement, les femmes ont plus des difficultés à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les femmes tombent enceintes, enfin voilà, des choses...
Oh, ça va, ça va.
Donc, forcément, il y a...
Du coup, à t'entendre, je me demande, est-ce qu'il faut être une femme pour bien écrire une femme ? Ou comment ça se passe ?
Ça, c'est une question à 10 euros.
10 euros, ça monte
c'est
un peu.
C'est une question polémique, même, ça.
Oui.
Non, mais c'est vraiment pour vous poser.
Moi, je ne pense pas, très honnêtement. Moi, je pense qu'il y a des bons auteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, qui sont capables d'écrire des beaux personnages, hommes ou femmes. Et voilà, après, c'est vraiment une question d'implication. C'est une question d'essayer de se plonger à l'intérieur de la psyché de chacun de ces personnages, en ayant, bien entendu, à chaque fois la difficulté, soit que, je ne sais pas, il est pas du même sexe que toi, il n'est pas du même milieu social, il n'a pas le même âge, il n'a pas la même maturité, donc à chaque fois il faut... La difficulté c'est celle-là, c'est d'essayer de rester juste avec des personnages qui ne sont pas nous. Voilà, et donc il faut quand même toujours trouver cette espèce de part d'authenticité et d'universalité au sein de chaque personnage qu'on va explorer. C'est plus facile quand ils sont plus jeunes et c'est peut-être plus facile quand ils sont du même sexe que nous, ça c'est sûr. Mmh. Mais après, on a tous eu un père, un frère, un cousin, un meilleur ami, etc. Donc on a aussi des références de gens qu'on connaît, qu'on aime intimement, etc. et qui peuvent aussi nous donner de la nourriture pour essayer de trouver cette espèce de justesse de caractérisation. Et voilà, et après non, moi je pense pas que... Après c'est sûr que les femmes ont malgré tout trop peu écrit, à mon sens, même si bien entendu c'est complètement en train de changer de nos jours. Et c'est vrai que le point de vue féminin sur la féminité et sur la masculinité est intéressant, est enrichissant. Et d'ailleurs, c'est très souvent assez intéressant, excusez-moi, je dis beaucoup intéressant, d'avoir des coécritures hommes-femmes, parce que justement, on s'aperçoit alors que... Malgré tout, on n'a pas forcément exactement la même manière d'aborder la construction de personnages. Et du coup, c'est très enrichissant de faire ça avec des personnes de sexe différent.
Tu vois, on avait une question qui après qui était « Quels conseils donneriez-vous à des scénaristes hommes pour mieux aborder les personnages féminins ?» Je trouve que c'est une super réponse. De trouver un co-auteur féminin, par exemple, ça peut aider.
Alors, est-ce que vous connaissez l'étude qu'a fait la Guilde des scénaristes sur les hommes et les femmes scénaristes en France ?
Non.
Non.
C'est une étude qui a été faite sur les films sortis entre 2003 et 2012, donc ça fait beaucoup de films. Il y a beaucoup de chiffres, de statistiques, et il y a des choses assez étonnantes qui en ressortent. Alors, on a quelques extraits sous les yeux. Répartition, par exemple, des films écrits par un ou plusieurs scénaristes en fonction du genre, et on a 84% d'hommes.
84.
Oui, et 16%
ouais.
De femmes.
Oui, ça me semble c'est tout énorme. À fait réaliste. Ouais.
Et du coup, comme c'est entre 2003 et 2012, on a une évolution, on voit si les chiffres changent un peu. Donc globalement, il y a quand même plus de scénaristes, et plus de scénaristes femmes aussi, forcément, dans l'évolution. Donc ça, c'est plutôt...
En fait, je pense que ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de scénaristes femmes. On n'a pas forcément plus de difficultés à écrire que des hommes. La difficulté, elle se fait en fonction du format, du budget aussi. C'est ça qui est
Alors,
assez flagrant.
Le budget, justement, répartition des scénaristes par genre selon le budget des films. C'est assez marrant. On a entre 0 et 1 million, on a 29% de femmes. Ouais. Entre 1 et 3 millions, on a 40% de femmes. Et après, ça dégringole. Entre 3 et 7, on a 25%. Entre 7 et 15, on a 17%. Et plus de 15 millions, on a 7% de femmes seulement. Donc 93% des films de plus de 15 millions d'euros sont écrits par des hommes.
Ouais, c'est assez flagrant. Ouais.
En même temps, ça ressemble au reflet du monde.
Hein. Oui, c'est ça. Il y a certainement beaucoup moins de femmes aussi qui écrivent des films de genre, et ainsi de suite. Quoi. On nous cantonne quand même beaucoup à la comédie, à la fiction jeunesse.
Oui, mais la comédie au cinéma, ça marche. Est-ce que des grosses comédies, pourquoi elles ne seraient pas écrites par des femmes pardon.
C'est ce que je suis en train de faire, mais c'est assez rare. Forcément. Et c'est parce que je l'ai initié. Je ne suis pas sûre qu'on serait venu me chercher sans ça.
Est-ce que c'est de plus de 15 millions d'euros ?
Non.
Ah, tu vas pas faire bouger...
Pas ma connaissance, sinon il va falloir que je renégocie mon contrat.
Du coup, en fait, moi, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Anna, si je vous pose cette question, quel conseil donneriez-vous à des scénaristes hommes et femmes pour écrire des personnages féminins modernes, réalistes et surtout loin des stéréotypes ? Parce que tu disais tout à l'heure, voilà, le harcèlement de rue, c'est une réalité. Ça peut arriver quand tu fais un personnage peut-être parisien. Est-ce que c'est des choses que je peux intégrer comme auteur ? Il faut que je le fasse ? C'est important ? Comment vous voyez un peu ça ? Claire ?
Alors, moi, j'ai l'impression, que ça, c'est un conseil, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, et que ce soit pour construire des hommes ou pour construire des femmes, c'est qu'il vaut toujours mieux, à mon sens en tout cas, s'inspirer de sa propre perception de la réalité plutôt que de s'inspirer des séries télé ou de la fiction. En fait, quand on s'inspire de la fiction, ça devient de la fiction dans de la fiction, et c'est ça qui, au bout d'un moment, crée des personnages complètement faux, en fait, complètement en papier glacé, alors que si tu t'inspires de la vie, de tes souffrances, enfin des choses que tu as éprouvées dans ta chair, des choses que tu as qui t'ont fait souffrir, des choses qui t'ont rendu heureux ou qui t'ont rendu mélancolique, et si tu restes sur la vérité des émotions, de tes propres émotions, si tu comprends qu'en fait la vraie richesse d'un auteur, c'est malgré tout son terreau émotionnel, ce qui lui le touche et ce qui lui l'émeut et ce qui le traverse. À partir de là, j'ai l'impression qu'on n'écrit plus les personnages de la même manière. Moi, je vois, justement, je suis formatrice aussi, et très souvent, dans les premiers exercices que font les aspirants scénaristes, si je donne aucune contrainte, qu'est-ce que ça va être comme personnage ? Ça va être un avocat américain à New York, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds à New York, qu'ils ne connaissent pas d'avocat, et qu'ils vont faire une histoire complètement abracadabrante, qui va être vraiment de la fiction dans la fiction dans la fiction dans la fiction. Et dès qu'ils reviennent à eux, dès qu'ils osent en fait dire « je » quelque part, même si bien entendu l'idée n'est pas de faire une autobiographie du tout, mais de s'inspirer de sa réalité, de son propre univers qui est d'une richesse incommensurable.
C'est vraiment une des qualités vraiment essentielles pour un auteur. C'est vraiment, en plus d'être à l'écoute, de se servir de sa sensibilité, mais d'observer le monde. Et donc c'est valable, bah, du coup, qu'on écrive un personnage de tueur, de femme, d'homme, de théière, comme disait Claire tout à l'heure. ça demande un travail de recherche, un scénario. Et les personnages en particulier, c'est même l'essentiel d'un scénario. C'est vraiment le cœur. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est être en immersion, c'est être en immersion avec la société. Et quand on traite d'une autre époque, bah, il faut faire ses recherches. Il faut essayer de comprendre, et comme disait Claire, avec sa propre sensibilité, mais vraiment d'essayer de percevoir le monde vu à travers les yeux des personnages qu'on a écrits, que ce soit des hommes ou des femmes.
Je ne sais que dire face à tant de sagesse.
Anna, peut-être par rapport justement à ce que tu as lu en tant que lectrice, est-ce que tu vois des conseils directement adressés à ces gens qui font des choses qui te sautent aux yeux quand tu les lis, des choses à dire en particulier
Pour moi, c'est vraiment les premiers mots. Pour moi, dès que j'ai vu la description du personnage féminin, j'ai dit c'est mort. Mais je sais que c'est mort. Et je sais aussi, je dis, c'est peut-être un réflexe bête, mais je dis, ça, je suis sûr que c'est un mec ça. Certaines fois, parce qu'on sent que c'est des réflexes. Encore une fois, c'est une question de savoir.
T'arrives à savoir qui a écrit le
J'arrive
scénario.
Pas toujours à savoir. Des fois, je suis là, ah non, c'était une meuf. Ah merde, quand même.
Mais ça veut dire qu'en fait, les scénarios que tu lis, ils sont anonymes.
Ça dépend des fois. D'accord. Ça m'arrive d'avoir des scénarios anonymes. Les boîtes de production m'envoient des fois pour que j'ai pas de.
D'accord.
Pour que j'ai pas de.
D'a priori,
exactement.
Ok. Je savais pas, c'est marrant.
Mais moi, j'ai récemment eu l'occasion d'être lectrice pour un concours de scénario, justement, organisé par Women in Film France, donc, dont le seul cahier des charges était d'écrire, justement, des histoires et des personnages avec un point de vue féminin. Et c'est vrai qu'alors, du coup, pour le coup, c'était anonyme, les scénarios. Mais c'était vraiment très triste de constater que même quand on donne la parole à des femmes, justement, et qu'on leur dit, bah, allez-y, lâchez-vous, c'est le moment, c'est votre heure. On a vraiment eu des très beaux sujets, mais on va dire que...
Avec des avocates new-yorkaises.
Avec des avocates new-yorkaises. Mais effectivement, la grande majorité de ces sujets, finalement, présentaient une image très archaïque de la femme. C'était vraiment très triste. Et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, à cette histoire d'autocensure et de formatage. Et donc, du coup, c'est aussi, je pense que, notamment en tant que femme, quand on écrit, quand on a envie d'écrire, c'est pas forcément pour parler que d'un point de vue de femme, mais ça devient presque une responsabilité de nos jours de mettre en avant aussi ce point de vue-là.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, à laquelle on est obligé d'être attentive, on va dire, parce que là, on parle au féminin.
Majoritaire.
Mais voilà, mais oui, c'est important, c'est vrai. Et je sais qu'il y a certaines choses que moi, en tant qu'auteur, que ce soit dans la coécriture ou non, d'ailleurs, je suis obligée de faire attention à ce qu'on dit, quand même, malgré tout. Alors, moi, je dirais que c'est à ce qu'on dit des hommes et à ce qu'on dit des femmes, parce que moi je suis bien entendu tout à fait féministe, mais j'adore les hommes aussi et je suis humaniste avant tout. Donc je pense qu'il faut faire des beaux personnages et rendre honneur aussi aux hommes, parce que les caricatures sur les hommes, il y en a beaucoup aussi, hein, les super-héros, les machins, etc. Il y en a quasiment autant que sur les femmes. Après, comme les hommes ont peut-être une position plus facile, peut-être, dans la société, c'est normal aussi que le combat des femmes soit peut-être important, on va dire, parce que il y a des combats sociétaux à gagner encore. Donc à partir de là, c'est normal, je pense, que la place de la femme dans la fiction soit un enjeu aussi presque politique, je dirais. Encore une fois, avant tout, je pense que c'est la justesse, c'est-à-dire que faire aussi une femme superwoman juste pour que tout d'un coup, je sais pas si c'est intéressant non plus, si derrière il y a pas quelque chose à raconter. En fait, c'est toujours le propos qui compte, en fait, c'est ce qu'on a envie de raconter à travers une histoire.
Alors toi, Claire, justement, tu as écrit un ouvrage, un roman qui s'intitule Ceci est mon sexe, paru aux éditions Hugo Roman en 2014. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises.
Non, tout à fait, c'est ça.
Et du coup, pour le coup, il y a un personnage très fascinant qui s'appelle Trixie Rose. Est-ce un personnage féministe pour toi? Comment tu l'as créé? Comment tu l'as conçu? La genèse un petit peu du projet? Comment ça s'est passé?
Alors, est-ce que c'est un personnage féministe? Je pense que c'est un personnage qui, en tout cas, aimerait l'être, mais qui est quand même encore un peu freiné justement par beaucoup de choses. Pour le dire en deux phrases, c'est Trixie Rose, voilà, peut-être.
Qui est Trixie
Rose? Bien entendu, tout le monde connaît, donc il n'y a pas besoin de la présenter. Trixie Rose, donc, c'est une jeune femme, une jeune métisse, à la beauté subjugante, mais pour le coup, c'est impossible de ne pas parler de sa beauté.
J'avais besoin de ça.
Puisque c'est vraiment la caractérisation et la caractéristique principale du personnage, c'est même un peu son piège, qui se découvre femme fontaine. Voilà, donc ça, c'est féministe de parler de femme fontaine, parce que ni les hommes ni les femmes n'en parlent, ou en tout cas très peu, et qui découvre que donc sa fontaine a des vertus miraculeuses. Et donc elle guérit des gens quand elle fait l'amour avec eux, et des personnes, on va dire, vont essayer de la faire passer pour la fille de Dieu. Donc oui, bien entendu, dans le propos, en tout cas, c'est féministe.
Et c'est politique.
Et c'est politique, et c'est sociétal, et c'est... voilà. Puisque l'idée que Jésus est une sœur, pourquoi pas, après tout. Mais bien entendu, de dire ça, c'est tabou, c'est choquant, et les religions monothéistes ont chassé les femmes du ciel. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Héra, Isis...
bien sûr.
Voilà, enfin, toutes les déesses indiennes, etc. Tous les dieux indiens ont leur parèdre, qui est vraiment leur double féminin, qui est aussi puissant. Il y en a un qui va être l'énergie et l'autre la matière, etc. Donc tout est un peu comme le yin et le yang, c'est-à-dire que tout est lié à tout, le masculin, le féminin. On n'a pas divisé la dualité, on va dire. Et voilà, donc l'idée d'une femme miraculeuse, d'une femme prophétesse, mais qui en même temps passe par son corps et par sa sexualité, je pense que le propos du livre est féministe. Est-elle, elle, le personnage féministe? Je ne suis pas sûre, parce que justement, elle est au contraire empêchée par beaucoup de choses qui sont projetées sur elle et qui sont l'image de la femme que la société projette sur elle.
Et je suis ravie d'apprendre que du coup, il y a une adaptation en cours.
Alors, il y a une adaptation en cours je touche du bois, devrait être faite pour la télé anglaise. Voilà, mais pour l'instant, c'est en cours. Rien n'est encore tout à fait sûr.
À la jeunesse du projet, du coup, Claire, tu pensais qu'il fallait le faire plutôt un roman, et c'était mieux de faire un roman et de voir si ça pouvait peut-être donner quelque chose, ou c'était quelque chose que tu aurais pu proposer en fiction déjà à l'époque?
Alors moi, j'aurais jamais proposé ça en fiction. C'est un producteur qui est venu me voir. Moi, au contraire, c'est parce qu'à l'époque, je travaillais pour TF1 et que du coup, j'étais vraiment dans une fiction, on va dire, très tenue avec des rênes, quoi, on va dire. Et du coup, je me sentais complètement un peu sclérosée, moi, dans des fictions où les personnages ne pouvaient pas vraiment exprimer des choses, où il fallait que ça plaise de 7 ans à 77 ans. Donc moi, j'ai vraiment écrit mon roman en ouvrant une porte d'oxygène sur une liberté totale sans censure, et d'exprimer ce que moi, auteur, j'avais envie d'exprimer, et que bien entendu, on ne me permettrait pas d'exprimer, mais j'en avais conscience et je ne cherchais pas à l'exprimer sur TF1, ça aurait été absurde. Et du coup, j'ai écrit ce roman toute seule dans mon coin, en me disant, bon, personne ne va le prendre parce qu'il est dingue, parce que bon, il y a plein de personnages, etc., il fait quasiment 500 pages, donc c'est un gros roman,
ouais.
Très baroque, on va dire, et j'ai trouvé Stéphane Million, mon éditeur chéri, que j'embrasse, et qui a bien voulu parier sur ce roman. Et donc, voilà, quelques années plus tard, ce producteur, Jimmy Desmarais, qui nous a dit qu'il aimerait l'adapter. Et donc, je l'ai coécrit avec Alain Lérac, un co-scénariste.
La Fontaine, votre La saga d'été bientôt sur TF1.
Va savoir.
Il serait capable d'acheter les droits de la série anglaise.
Mais peut-être.
Alors, le côté fontaine, est-ce que c'est bien obligé?
Est-ce qu'elle pourrait pas plutôt...
être coiffeuse, un truc avec
par
les cheveux?
Regard. Par son regard. Par son regard, voilà.
Alors moi, je me demandais si c'était intéressant de réfléchir en termes d'utilité des personnages quand on parle des hommes et des femmes. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne veut pas voir des comédies avec des hommes bêtes et des jolies femmes, ou c'est quelque chose de révolu, il faut passer à autre chose maintenant ?
Non, il faut passer à autre chose. Il serait temps. Ce qui fait rire dans une comédie, c'est de pouvoir s'identifier aussi. C'est d'y voir nos propres défauts, nos propres galères, nos propres looses. Donc pour ça, il faut que les personnages soient notre image aussi, qu'ils soient en phase avec notre époque.
D'accord. Alors. Claire a l'air d'accord.
Oui, j'ai l'air. Oui,
Anna aussi.
Anna aussi. Tout le monde est d'accord. D'accord. Voilà, c'est la question con.
50 centimes.
Voilà. Alors, le dernier film que vous avez vu avec une femme intéressante, en rôle principal.
American Honey, d'Andrea Arnold.
Que je n'ai pas encore vu, mais je suis absolument persuadée que ce serait pareil pour moi, si je l'avais vu.
Ouais, d'accord, entièrement. Très, très beau film. Et j'ai vu le dernier film de Kelly Reichardt qui va sortir le 22 février, qui s'appelle Certaines femmes. Voilà, donc on est dans le sujet, avec trois portraits de femmes sublimes. C'est un film incroyable.
Bon, moi, je suis moins dans l'actualité. Je suis resté sur Rogue One, dans un style très différent.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Les personnages féminins de Jane Campion aussi, quand même, sont assez remarquables. Et je pense que c'est... Et Andrea Arnold aussi, bien sûr. C'est vrai que, malgré tout, quand même, les femmes réalisatrices dressent parfois des portraits féminins assez magnifiques et, on va dire, justement touchants. Et différent, et en tout cas en tant que femme, je sais que moi souvent il me bouleverse assez, quoi. Le personnage de, qui n'est vraiment pas récent du tout, mais d'un ange à ma table, de Jane Campion par exemple, c'était choc aussi de voir un personnage comme ça, voilà, parce qu'on n'en avait jamais vu, enfin en tout cas moi non, j'en avais pas vu, pas comme ça.
Et pour donner un exemple, alors un tout petit peu moins récent, mais de film justement écrit et réalisé par un homme, mais avec un très très beau personnage féminin, il y avait le High Daniel Blake de Ken Loach. Où il y a un très très beau, enfin tous les personnages sont magnifiques, mais il y a un très très beau portrait de femme, de mère, justement d'une modernité, j'ai envie de dire, très cruelle. Mais voilà, donc comme quoi, effectivement, c'est pas non plus lié au sexe de l'auteur.
Non, c'est à sa sensibilité, je crois.
Voilà.
Et à sa manière de percevoir le monde, finalement. Comment tu parles de modernité, moi je trouve c'est ça le terme, en fait. C'est quel curseur de modernité j'applique ce personnage, en fait, qu'il soit masculin ou féminin, finalement.
Et effectivement, c'est une constante façon dans tous ces films. Mais en fait, c'est vrai que plus le cinéma est social, et je ne veux pas dire par là forcément qu'il s'agit de drame, mais en tout cas, plus il y a cette dimension, plus en général on trouve des personnages vrais, tout simplement.
Un petit jeu alors.
Allez, le petit
jouons.
Jeu. Jouons.
Jouons. Wow, vous attendez pas un truc super fun.
Bah, du coup, ça donne pas envie.
C'est qu'ils ont choisi. Là, tu tues le truc dans le flair.
C'est clair.
Ok.
Mathieu, t'es viré.
Alors, faites-vous votre propre avis. On va vous donner des noms de personnages féminins et on aimerait votre avis sur leur écriture, sur comment elles sont. Bon, Hermione Granger dans Harry Potter.
Alors moi je suis fan d'Harry Potter, donc j'aime beaucoup ce personnage et ça, c'est vraiment ce modèle de femme qui est intelligente, qui est forte, qui est engagée, parce que toute la série montre comment elle s'engage de plus en plus politiquement, parce que aussi ce que raconte Harry Potter, ce sont des histoires politiques. Enfin, moi j'aime beaucoup ce personnage et son importance dans la saga et sa complémentarité avec ses camarades et tout. Enfin, moi je suis fan d'Hermione Granger, voilà.
Pareil.
Oui, moi aussi, bien entendu, c'est un super personnage.
Il faut deux gars, en fait.
C'est
exactement.
C'est toujours un peu ça. Quand il y en a trois, il y a une fille.
Oui, ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle le principe de la schtroumpfette. C'est-à-dire, c'est un groupe où il y a plein d'hommes et il y a une fille
qui, heureusement, est intéressante. Mais, et Hermione, non, ce qui est quand même justement bien. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, mes enfants particulièrement et ma fille encore plus particulièrement ont dévoré Harry Potter à un très jeune âge. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est bien quand on se construit en tant que fille d'avoir justement un personnage qui n'est pas du tout décrite comme spécialement jolie. Elle est quand même avant tout mise en avant pour son intelligence.
C'est vrai.
Et sa capacité à apprendre aussi.
Voilà, à prendre des décisions, à agir. Et moi, je sais que je préfère que ma fille se construise en découvrant des personnages comme ça que d'autres qui seraient peut-être plus caricaturaux, quoi.
Ouais,
elle a des défauts qui sont sympas aussi. C'est Madame Je sais tout, mais qui se fait remettre à sa place. Et c'est plutôt chouette, en fait. Dans un autre style, on a Furiosa dans Mad Max.
Alors, moi, j'ai pas vu.
Moi, j'ai vu. On va dire que je suis un peu moins dithyrambique que la presse au sujet de ce personnage.
Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est le personnage principal du film, au final.
Tout à fait.
Ah oui, ça c'est sûr. Et en fait, Mad Max, même s'il est dans le titre du film...
Oui, c'est pour le coup, de la figure, quoi.
Il fait un peu de la figure, ouais.
Ouais.
Bah, elle est intéressante quand même, cette espèce de puissance. Voilà, c'est un truc, c'est du côté des femmes, qui sont mises en avant, ce qui est un choix intéressant aussi, qui sont mises en avant pour leur côté masculin, entre guillemets, c'est-à-dire la puissance.
On te vend un film d'action de testostérone avec un gars Mad Max, ouais, on va tout péter, et au final, c'est la nana.
En fait, c'est la meuf.
C'est la nana qui est là pour tout péter, et toi, gros sexiste, machiste, tu vas au cinéma et tu te fais avoir, c'est bien.
C'est intéressant, on va dire que c'est un cheval de Troie. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant comme idée. Après, moi, je n'ai pas vu le film, donc je ne vais surtout pas faire une critique du personnage que je ne connais pas. Mais l'idée d'inversion pure et simple des rôles me semble toujours un tout petit peu facile, et voire un peu. C'est un peu facile et c'est un peu. Imbécile, c'est peut-être pas le terme, mais disons que je pense que c'est pas ça en fait, et que la force d'une femme, ça va pas être d'être comme un homme. Ça va être d'être forte comme une femme, voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher, plutôt que de simplement donner un rôle d'homme à une femme, quoi. Il me semble. Mais bon, n'ayant pas vu le film, c'est une critique complètement gratuite.
Je trouve que ça dépend des cas quand même. Il y a des cas hyper connus, par exemple le cas d'Alien, où le personnage de Ripley à l'origine était un homme, et ils ont décidé de changer en faisant une femme, et ça reste malgré tout un personnage sublime, puissant, enfin voilà, qui porte vraiment le film. Je sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien si ça avait été un homme, mais ça, en fait, je pense que ça dépend de ce que porte le personnage et ce que raconte l'histoire. C'est...
Tout à fait.
Il y a des... Pour certains personnages, leur genre ne change rien. Et pour d'autres, ils changent tout. Et je pense que il faut savoir doser ça aussi.
Tu me fais plaisir parce que Adrien avait retiré Ellen Ripley de la liste.
Rébellion.
Je l'ai retiré parce qu'on a beaucoup dit de choses sur ce personnage. Et je me suis dit, bon, allez, écoutons, entendons autre chose.
On a aussi Lady Mary dans Downton Abbey.
Ouais. Ah, pas vu. Je ne connais pas.
Personne n'a vu.
Si, je connais. Alors, Lady Mary, rappelle-moi.
La fille aînée.
Oui, ouais. Donc qui, pour le coup.
Pour le coup, après, on peut parler aussi des autres personnages féminins.
Des autres personnages féminins qui sont très variés.
Mais elle marque quand même.
Elle marque, oui, parce qu'elle est dans...
Elle a un sacré tempérament.
Disons qu'elle a beaucoup de tempérament. Elle est à la fois complètement... Elle obéit quand même aux règles, en tout cas, de sa société. Et à côté de ça, elle est capable d'avoir tout d'un coup des espèces de moments de liberté ou de folie qu'elle ravale. Elle a une espèce de force assez intéressante. Après, ce n'est pas forcément, moi, le personnage que je préfère dans Downton Abbey, loin de là. Mais elle est très intéressante comme personnage. Voilà.
Quel est ton personnage préféré du coup ? Est-ce que c'est une femme ?
Quel est mon personnage préféré ? Je ne sais plus bien. Oui, bien sûr.
Pour le coup, c'est une série
bien entendu
écrite par un homme. Enfin, d'après le
générique. Les personnages féminins sont quand même extrêmement bien dessinés, tenus et tenus sur la longueur, quoi. Et puis il y a des personnages méchants, de femmes méchantes aussi, pas caricaturales. Il y a toujours une raison derrière, un fond sociétal aussi. C'est une série extrêmement bien écrite, je trouve.
Plus proche de chez nous, on a Fabienne Lepic. Non, fais pas ci, fais pas ça.
Moi, je trouve ce personnage plutôt chouette.
Qui évolue ?
Elle évolue. Bon, ok, alors pour le coup, elle part d'une position sociétale assez.
Mère au foyer. Assez,
elle est mère au foyer. Elle a pas fait. Elle a fait des études. Enfin, non, pas vraiment, parce qu'elle les reprend, je crois, à un moment donné, ou je sais plus trop. Enfin, bon, bref, voilà. Elle a ses enfants à gérer, son mari, etc. Et au fur et à mesure de la saison. Enfin,
elle en a un peu marre, elle veut travailler, voilà. Elle s'implique dans
la vie de la mairie, enfin, dans la vie de sa ville, en fait. La municipalité, pardon. Voilà, la parole est à vous.
Elle se rebelle un peu,
c'est
chouette.
De toute façon, Fais pas ci, fais pas ça, c'est vraiment une des meilleures séries françaises. Ces dernières années, sur beaucoup de points de vue, et notamment l'écriture. C'est vrai qu'il y a quand même, pour le coup, ils ont réussi à insuffler de la modernité, justement, dans des personnages qui, à la base, sont stéréotypés, mais c'est assumé, et qui ont une dinguerie qui les rend, pour le coup, qui les rend attachants et concernants. Donc, effectivement, c'est un beau contre-exemple.
Et je sais de sources sûres que ça a été écrit par des femmes.
Oui, notamment. Voilà. Non, mais c'est effectivement très, très bons auteurs sur cette série.
Alors, en France, en série télé, on a beaucoup d'héroïnes. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose... Alors déjà, pourquoi, selon vous ?
Parce que l'audience est féminine.
Et est-ce que c'est quelque chose dont on peut se réjouir, finalement ?
Alors, il y a Candice Renoir, Nina, Agathe Coltès récemment. Bah, beaucoup d'héroïnes féminines.
Entre autres.
On pourrait s'en réjouir si elles étaient écrites de façon un peu plus... j'allais dire... Buriné, voilà.
Et burné.
Un peu plus moderne, tout simplement. C'est vraiment l'incarnation de tout ce qu'il y a d'insidieux dans le problème en France, quoi. À mon sens, c'est vraiment consternant. C'est vraiment consternant de nous proposer encore, même si effectivement il y a quelques contre-exemples très sympas, mais de nous proposer majoritairement des héroïnes, des femmes qui n'existent pas.
Oui. Claire. Alors après, par exemple, un personnage son nom et du personnage et de l'actrice m'échappe. Mais dans Engrenage, Le personnage de la flic, justement, apportait une modernité, dans le, même dans le jeu, en fait, dans la vérité, et, dans la mani- et où le personnage aussi de l'avocate. Je trouve qu'il y avait, à ce moment-là, et c'est assez vieux en plus, hein, l'air de rien, ça fait au moins une dizaine d'années facilement, il y avait quand même, on avait l'impression tout d'un coup de voir des personnages féminins qui sortaient et qui ressemblaient un peu plus à des femmes ou à des personnages auxquels on aurait pu s'identifier quelque part.
Sur Arte aussi, il y a des très belles séries, je pense notamment à Trois fois Manon, dont on va voir la suite prochainement. Ça, c'est vraiment un magnifique personnage féminin, un magnifique contre-exemple aussi de ce qu'on est capable de faire. Il y a eu la série aussi de Hervé Admar et Marc Herpoux récemment, Derrière le mur. Voilà. Mais c'est effectivement souvent sur des chaînes comme Arte ou Canal où l'auteur a quand même une place un peu plus, je ne vais pas dire sacralisée, mais...
Oui, mais en même temps, il me semble que c'est un peu comme ça dans tous les pays. C'est-à-dire que même nous, quand on regarde la fiction anglo-saxon, on n'a que le haut du panier. On a vraiment les séries un peu exceptionnelles qui arrivent jusqu'à nous. Mmh. Et après, 90% de leur production, les personnages féminins, masculins, etc., c'est quand même des voilà, c'est ni fait ni à faire. Ou alors, c'est simplement bien fait, mécanique, utile. Donc, je pense que par rapport au volume global de la fiction que nous avons et qu'ils ont là-bas, c'est pour ça. Il y a de toute façon ces contre-exemples-là. Quelque part, nous, ce qu'on retient de la fiction américaine ou anglaise, ou d'autres pays, souvent ce sont justement ces contre-exemples en fait.
Juste naïvement, est-ce que ce sont les diffuseurs qui, selon vous, feraient, enfin c'est difficile de répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a une responsabilité de la part des diffuseurs, des auteurs, des gens qui regardent la télévision, de la publicité, est-ce que c'est un peu tout lié, comment on peut...
Elle est collective, parce que ça serait trop facile de toute façon disons que quand même il y a vraiment une coupure entre les auteurs et les diffuseurs. C'est vrai que c'est souvent on n'est même pas invité aux réunions dans les chaînes. Donc en fait, il y a une espèce de mur d'incompréhension, j'ai l'impression, entre les divers acteurs de la création audiovisuelle. Et ce qui est certain, c'est que le public, je pense, aurait besoin aussi de...
Ces débats,
justement, sur comment améliorer les choses, comment mieux communiquer, comment faire avancer le public, gagnerait beaucoup à être fait, justement, dans une sphère publique. Parce que je pense que le public français est un peu scindé entre une audience assez jeune qui se dit « Oh ben non, de toute façon, la télé française, c'est pourri, je regarde pas », à tort, puisqu'il y a parfois des belles choses qui se passent, et une audience un peu plus âgée qui est résignée et qui regarde ce qu'on lui donne, mais qui aimerait certainement aussi voir des fictions un peu plus modernes.
Tout à fait d'accord.
Alors Nathalie, tu as la parole, tu vas la garder. tu fais partie d'associations autour de la femme justement et de l'écriture. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit
peu ? Bien sûr. Je suis membre de deux associations, une qui s'appelle Le Deuxième Regard et l'autre Women in Film France. Donc qui ont un peu la même utilité de base, c'est-à-dire de mettre en avant le travail des femmes dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Alors toutes professions confondues, hein, aussi bien les techniciennes que les actrices, que les auteurs. Réalisatrice et productrice d'ailleurs. Oui, c'est un combat qui est très important à mes yeux, mais je tiens à dire aussi qu'il y a aussi des hommes dans ces associations.
J'ai demandé comment rejoindre.
Même et justement que le mon envie, en tout cas à titre personnel, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes qui rejoignent nos rangs parce que c'est les problèmes de parité. De toute façon, ils nous concernent tous, hommes comme femmes. Et qu'effectivement, on aimerait toutes, et notamment les femmes, on aimerait que ça ne soit plus une question en fin de compte. C'est vrai que quand nous, enfin, on est auteur, on n'est pas femme auteur. Enfin, à la base, voilà.
On ne devrait pas faire de podcast, en fait, là-dessus.
Dans un monde idéal, on ne le ferait pas, mais malgré tout, là, il faut le faire.
Et en revanche, c'est quelque chose qu'on nous renvoie dans la tête en permanence. Et effectivement, pour que ça bouge, c'est notre responsabilité à tous, hommes comme femmes.
L'appel est lancé.
Voilà, donc messieurs,
rejoignez les rangs.
Rejoignez-nous.
Alors, en parlant des hommes et des femmes, on va écouter notre ami Liam Engel à ce propos.
Qui n'est pas avec nous dans le studio, mais qu'on a réussi à.
Grâce à la magie de la technique, c'est parti.
Voilà, saut spatial temporel, Mathieu.
On pourra faire un à vous les studios après.
Complètement, ça serait trop cool.
Alors que c'est nous finalement les studios, on n'aura pas la différence. Alors là, on est dans un canapé, tranquillement, ainsi avec Liam Engel.
Salut Liam.
Salut Liam, qui est scénariste et réalisateur et qu'on a entendu
et
déjà.
Et habitué du podcast.
Et habitué, voilà. C'est vrai. Désormais habitué et qu'on a plaisir à entendre. Alors, on a eu le point de vue de trois femmes sur l'écriture et les personnages féminins, etc. Toi, tu as écrit et réalisé un court-métrage qui s'appelle
Mec Meuf.
Et qui a comme particularité d'être
une comédie fantastique.
Tu vas lui faire ça à chaque fois.
Ouais, je trouve que c'est marrant. Tu remplis les blancs.
C'est ça la bonne réponse?
Oui, c'est ça la bonne réponse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film, comment il a démarré dans ta tête et comment il s'est concrétisé? On l'a abordé un petit peu le mois dernier.
Ouais, mais je vais peut-être en parler en deux mots juste pour le présenter.
On remettra un lien, bien sûr, dans la description du podcast.
Ouais. Et ben, MacMuff, c'est une comédie fantastique sur un mec qui s'appelle Bob qui se retrouve transposé accidentellement dans un monde alternatif où les filles draguent les mecs. Dispositif scénaristique plutôt classique, mais à l'époque où je l'ai écrit, j'avais jamais rien vu de la sorte. Il y a eu pas mal de films qui sont sortis entre temps ou qui ont été diffusés entre temps, notamment Majorité opprimée par exemple de Éléonore Pourria qui a eu un très gros succès sur internet, mais je l'avais pas vu à l'époque par exemple.
Et qui raconte
qui raconte le plus ou moins la même chose, à part que c'est pas un film fantastique, ça commence directement dans un monde alternatif où c'est.
D'accord.
Et ça joue plus sur une relation de domination au-delà de la drague en fait. Genre vraiment les hommes sont asservis en tant qu'homme au foyer, tout ça.
C'est trash ou pas du tout le ton
C'est un peu trash, ouais. C'est assez un peu glauque. Il y a une volonté de faire un film un peu glauque justement dans le film de Eleanor. Bref, donc voilà, donc c'est un film, vous pourrez le voir, il y aura un lien sur la page du podcast. Je l'ai écrit et tourné en 2012, ça fait un bout de temps déjà. C'est une idée qui m'est venue assez rapidement, qui est partie de manière assez égoïste de mes frustrations. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, personne ne me draguait. Enfin, peu de gens me draguent encore à ce jour. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment la cata. Et du coup, il y avait toujours cette interrogation. Mais comment ça se fait que moi, qui suis quelqu'un de bien, qui n'a pas l'air louche ou quoi que ce soit, où sont les filles, quoi? Où sont les femmes?
Voilà.
Et comment ça se fait que moi, il m'arrivait des fois dans un moment de misère sexuelle de, je sais pas, de draguer, quoi? Et en retour, il n'y avait rien, quoi. Enfin, il y avait personne ne se manifestait spontanément. C'était une époque avant Tinder et tout ça, je précise.
Ah oui, 2012, ouais.
Ouais. Ou même avant 2012, en fait, c'est beaucoup plus vieux que ça, en fait.
La discussion qui ouvre le film, c'est presque du documentaire, finalement.
Alors voilà, donc le film commence par une discussion, en effet, sur les relations hommes-femmes, et ça, c'est parti de discussions que j'ai eues avec mon pote Robert, qui joue le rôle principal du film. On a eu cette discussion-là avec les femmes plein de fois, dans des soirées un peu bourrées, où on leur posait la question, mais pourquoi vous draguez pas? Et il y avait toujours des réponses des filles, et parfois les réponses frisaient un peu la mauvaise foi.
Ah oui.
Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre à l'image ce dialogue de manière synthétique, un peu efficace et punchy. Donc j'ai puisé dans mes souvenirs avec Bob et tout ça, tout ce qu'on avait dit, entendu en retour. Je suis aussi allé sur des forums du style Doctissimo.
Mais t'as raison, tu as
bien
raison.
Pour trouver des arguments de mecs ou de nanas pour ou contre la drague féminine. Et donc j'ai assemblé tout ça sous forme d'un petit dialogue punchy de 3-4 minutes. Et après ça, il y a une autre partie où le personnage donc, va dans un monde où les filles le draguent. Au début, ça commence bien. Au fur et à mesure, il voit que c'est un peu lourd. Et à la fin, ça vire à... Je spoil un peu le film, mais à une petite scène de viol. Bon, tu feras un cut au moment où tu dis non. tu me couperas la chic.
On va très vite y revenir. Mais alors, quand on aborde un sujet comme ça, forcément polémique, homme-femme, évidemment, tout le monde se sent concerné. Est-ce qu'il y a des pièges qu'on essaie d'éviter à l'écriture?
Alors, quand j'ai écrit MacMuff, j'ai écrit dans une démarche quand même volontairement assez provocatrice.
Tu disais que tu l'avais écrit seul.
J'ai écrit seul.
Voilà, seul et assez rapidement, c'est ça?
Je l'ai écrit seul, je l'ai écrit rapidement. Par contre, je me suis inspiré, en effet, beaucoup des arguments que Bob sortait lors des vrais débats dans la vraie vie, en fait. Donc j'ai pas mal puisé dans mon vécu de ce point de vue-là, dans son vécu, ses propos. Mais je l'ai quand même écrit seul et rapidement. Et l'idée, c'était de le faire dans une démarche un peu provocatrice, c'est-à-dire que je voulais mettre un peu les pieds dans le plat sur certains aspects, notamment par rapport aux contradictions des femmes quand elles se défendaient sur la question, tu vois, quand elles évoquaient toujours... Enfin, il y a toujours une bonne raison pour pas draguer, en fait, quoi, tu vois. Et puis un coup, c'est parce que si on drague, on passe pour des putes. Et si on drague, pas... C'est qu'en fait on drague, mais vous le remarquez pas, et que c'est votre faute, vous n'êtes pas assez.
Oui, chacun en prend dans sa gueule, dans le film finalement, homme comme femme.
Au début, les filles en prennent pas mal dans la gueule, à vrai dire. Bob se fait un peu contrecarré par les filles sur certains arguments qui sortent, qui sont un peu fallacieux. Mais globalement, à l'issue de la première scène, on est plutôt. L'idée, c'était que Bob marque un peu des points quand même et mette un peu les filles. C'est très général tout ce que je dis, hein, mais les filles face à leurs pires arguments en fait. Et puis en prenant des exemples d'autres sociétés occidentales, style le Québec ou l'Angleterre, où les filles draguent, voilà, et que c'est tout à fait possible sans passer pour des putes. Par contre, dans la deuxième partie, c'est Bob qui commence à prendre cher lorsqu'il se rend compte que, en effet, la drague que subissent les filles, c'est sympa 5 minutes, mais quand ça dure 15 ans, c'est moins cool. Et que parfois, ça peut devenir carrément très angoissant.
Jusqu'à cette scène qui a déclenché une polémique, si on peut appeler ça comme ça, notamment dans les commentaires sur YouTube où tu as mis le film en ligne, après sa chouette carrière en festival. Et que s'est-il passé, Liam ?
Je vais spoiler le film, hein, je suis obligé, mais globalement, à un moment, vers la fin, le héros se fait violer par un groupe de filles, par ses amies en fait, celles qui sont ses amies dans le monde réel. Quand j'ai écrit le film, je pensais que ça allait être la scène la plus polémique. En effet, c'est celle qui fait le plus parler. J'ai mis le film sur internet l'an dernier, en 2016. Les réactions étaient très majoritairement positives, il n'y avait pas de soucis, c'était très cool. Mais sur internet, voilà, les gens se croient... non lu, enfin se croit invisible, et du coup il parle du film, et moi évidemment j'allais voir sur les forums ce qu'on disait sur le film ou sur YouTube, etc. Et du coup il y avait des petites pépites qui sortaient, et je me rendais compte que la scène de viol déclenchait pas mal de réactions, et il y avait des réactions qui allaient un peu dans les deux sens. Certains accusaient le film d'être masculiniste, d'autres d'être une propagande féministo-fémène, je cite, hein. Il y a des gens qui trouvaient ça homophobe, d'autres qui trouvaient au contraire que c'était de la propagande LGBT, du lobby LGBT, le fameux.
Oui, qui t'a versé des millions, je pense,
versé pour des millions, ce, exactement, ouais, bien ce sûr. Film.
Mm-hmm. Il est temps de rétablir la vérité.
Oui, il faut enfin l'avouer. Donc, j'avais fait une petite, j'avais compilé quelques remarques les plus croustillantes que j'avais lues sur le film.
Chouette, chouette.
Cool.
Allez. Ça allait de, enfin, il y avait les gens qui disaient, oh là là, c'est tellement vrai. Il y avait les gens qui disaient en face, ce n'est qu'un ramassis de clichés. Il y avait ceux qui disaient, cette vidéo vous a été offerte par le lobby LGBT. Il y a eu le fameux en même temps, c'est un hétéro cis qui a fait ce truc, trois petits points.
Un hétéro quoi?
Un hétéro cis, donc un hétéro qui n'est pas transgenre.
Ok, je viens d'apprendre quelque chose là.
Voilà. Par exemple, si on allait sur des forums du style jeuxvideo.com, là on rentrait vraiment dans le masculinisme type Gamergate, vraiment un peu tendu, où c'était vraiment.
T'es allé dans les bas-fonds de l'internet là.
Je suis allé vraiment dans les tréfonds de l'horreur, même de l'âme humaine. Donc c'est très intéressant à observer parce que si on allait par exemple sur les Inrock, il y avait des accusations d'homophobie, c'est un hétéro cis qui a fait ce truc.
Parce que le film a été relayé sur pas mal de sites.
Il a été relayé par pas mal de médias, voilà, et selon un peu le lectorat des sites, on voit que les réactions sont différentes. Voilà. Donc sur les sites un peu de gauche, culturelle, etc., il y avait ce côté, parmi les rares personnes qui se plaignaient, qui se manifestaient, je veux dire, hein, des réactions plus du style, ouais, on en parle des clichés gays véhiculés dans ce film, ou ouais, c'est super masculiniste, etc. Et si on allait par contre dans les trucs style jeuxvideo.com, là, on avait droit à des remarques du style propagande gay, propagande féministo-fémène. Je cite toujours les mêmes phrases, là, parce que je les avais notées et je les avais compilées sur un petit graphique, mais ouin ouin, trop dur la vie de femme. Vidéo féministe, bourrage de crâne. J'avais noté, il y avait quelqu'un qui m'avait dit le monde change et c'est grâce à des gens comme vous, donc c'était un compliment. Il y avait à côté des gens qui disaient c'est quoi cette merde, putain, vous servez à rien à part foutre la merde dans le monde. Et concernant la scène de viol, il y avait beaucoup de filles qui appréciaient le fait qu'on montre qu'on aille dans un certain jusqu'au boutisme dans la représentation des violences et des menaces que subissent les femmes, et d'autres au contraire, hommes ou femmes, étaient gênés par l'équivalence qu'ils pensaient que le film faisait entre la drague d'un côté et le viol de l'autre, comme quoi on insinuait que les hommes étaient tous des violeurs en puissance, ou qu'en inversant les rôles, voilà, les femmes deviennent tout de suite des violeuses, enfin bref, et donc du coup ça déteignait mal sur les hommes, enfin c'est...
Après, il faut rappeler que c'est une comédie qui fait une dizaine de minutes.
Voilà, c'est une comédie qui fait un quart d'heure, et voilà, on a essayé de... Je suis conscient que le film n'est pas totalement... étanche d'un point de vue cohérent, mais je l'ai voulu comme ça, c'est-à-dire que j'aimais le fait qu'il y ait un peu des failles et parfois même des contradictions dans le discours et qu'on n'en ressorte pas avec un message un peu trop clair et trop net. Évidemment, comme la majorité des gens, je suis contre le viol, enfin voilà, c'est pas du tout un film pro-viol, je suis pas en train de dire ça ou quoi que ce soit. Hein. Ce que je trouvais intéressant, c'était que Bob avait raison au début sur le fait que les filles draguent pas, et les filles avaient raison aussi sur le fait que on drague pas aussi parce que parfois, enfin, c'est ouvrir la boîte de Pandore et parce que c'est parfois, on dans certains contexte, on vit entre guillemets dans la peur. Et ça, les hommes, vous ne vous en rendez pas compte.
Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je connais des filles qui draguent. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'est bien. Donc,
ça existe. Ouais.
Hein, voilà, présenté à l'IM.
Voilà, je vais faire ça.
Au l'IM d'avant.
D'avant, de 2005.
Remonte le temps et on va en 2007, ce serait nickel. Ouais.
Alors l'IM, t'es aussi lecteur et on reçoit dans ce podcast ta collègue des lecteurs anonymes, Anna. Et on lui a posé la même question. Quel déséquilibre homme-femme toi, tu constates le plus souvent ou des trucs vraiment aberrants?
Dans les scénarios que je lis, moi, je lis surtout pour des grosses boîtes. Donc, du coup, je suis exposé surtout à des films de marché et je remarque une énorme prédominance des scénarios avec des rôles masculins, des rôles principaux masculins. Quand j'avais fait des petites statistiques dans mon coin, j'étais arrivé à, je crois, un truc du style 64% de scénarios avec des hommes en rôles principaux, une vingtaine avec des femmes et puis une douzaine de mixtes ou je sais plus, enfin, ça fait pas 100, mais voilà.
Est-ce que pour être lecteur anonyme, c'est un prérequis d'aimer faire des statistiques ou pas? Parce que ça a l'air d'être la tendance chez vous quand même.
Ben, j'avoue qu'au sein du collectif, on aime bien compiler les choses et les transformer en data, vu que c'est le mot qui est à la mode en ce moment. Voilà, donc ouais, on aime bien... c'est vrai qu'on est sur des domaines un peu subjectifs, artistiques, etc. Mmh. Et pouvoir les convertir en chiffres, ça rend tout de suite les choses un peu plus claires. Et en camembert, c'est encore mieux.
Ah. Est-ce qu'il y a des clichés là comme ça qui te viennent, des choses que t'as lues, que t'as relues, tu t'es dit ça c'est pas assez plus moderne, c'est plus vraiment ce qu'on veut voir ni montrer en fait.
Ben il y a eu, je pense que vous en avez peut-être parlé dans le podcast, mais il y a eu la fameuse polémique autour des femmes script intros, les présentations de personnages féminins dans les scripts.
Oui.
Qui sont voilà où les filles sont souvent mises en valeur en tant que
par leur beauté,
par leur beauté leur voilà, et les hommes sont en général plus soit dépréciés, soit rendus beaux en tant que hommes charismatiques, un peu bourrus, voilà. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on remarque.
Burinés.
Ouais, ils sont souvent burinés, ouais, ils ont des têtes comme des manteaux de cuir, quoi, tu vois, c'est comme ça.
On va essayer de mettre ça dans le scénar maintenant.
Donc ouais, on remarque souvent ça. Mais il m'est arrivé récemment, souvent, lorsque le personnage féminin apparaissait, je me disais, oh là là, c'est parti, elle a une beauté naturelle, machin, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours une beauté un peu pas menaçante, quoi, tu vois, elle est belle sans le savoir, quoi, ça c'est... Mais j'ai remarqué que souvent, de plus en plus, les hommes avaient une petite remarque sur la beauté aussi. Là, je parle d'un échantillon très très faible, hein, c'est juste une impression que j'ai eue ces derniers mois. Voilà, que peut-être le hashtag FemScriptIntros a fait son effet et que certains scénaristes se sont remis en question de ce point de vue-là.
Et dans les rôles des femmes, leur caractère, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent et tu t'es dit, ah ouais, ça...
Ce qui choque, c'est la non-application du fameux test de Bechdel. Enfin, le fait que très peu de scénarios réussissent à passer ce test dont vous avez peut-être parlé dans le podcast.
Pas du tout, bah, du coup, même tu vas pouvoir nous en parler.
Et ton film échoue au test de Bechdel, tu sais.
Il échoue tout à fait au test de Bechdel
parce
qu'il
est complètement dans la thématique, donc c'est
et la plupart des choses que j'ai écrites échouent totalement, ouais, je suis entièrement d'accord.
Alors c'est quoi ce test de Bechdel?
C'est parti d'une petite BD écrite dans les années 80 si mon souvenir est bon, et c'est parti d'une blague en fait, et le test de Bechdel c'est vérifier si dans un scénario ou dans un film il y a deux personnages féminins qui se parlent entre elles d'un sujet autre qu'un homme. Voilà, donc réunir ces trois critères, ça paraît...
Vous me regardez, mais je le savais. Hein. Non, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui le savent.
Beaucoup de films échouent.
Énormément de films échouent, et c'est vrai que, personnellement, quand moi j'échoue, en général, j'ai toujours une bonne raison. Il y a toujours un moment
évidemment.
Où je réfléchis, je me dis, ah ben là, je peux pas, c'est un fait réel, donc lui c'était un mec, ah là là, hein. Et puis on se trouve toujours des excuses en mode, ah ben oui, moi je suis un mec, donc du coup j'écris pour des mecs, blablabla.
Tu fais un film sur les relations hommes-femmes, forcément, tu vas échouer au test de Bechdel, parce que c'est le sujet de ton film aussi.
Et
tu fais
un court-métrage. Si Mecmeuf avait été un long, je pense qu'il aurait passé le test à un moment ou un autre, mais c'est vrai qu'en version courte, où ça va vite et où le personnage masculin est c'est raconté d'un point de vue masculin, c'est dur d'avoir une scène avec deux filles, enfin en tout cas filles qui parlent d'autre chose qu'un mec, enfin bref. Donc le nombre de films qui échouent à ce test est quand même étonnant.
Pour en revenir sur les rôles, enfin sur les caractères des personnages, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent
Il y a plus de films avec des jeunes mères de 35 ans qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel, tu vois. C'est toujours des mamans de 35 ans, blondes, parisiennes, ça c'est le grand classique, elles sont partout elles.
Donc on cantonne en fait la femme pour l'instant dans la fiction, enfin de ce que tu lis, il y a ce genre de personnage quoi.
Dans la comédie, ouais, souvent c'est... Tu vois, c'est une femme en couple qui est sur le point d'avoir des enfants ou qui vient d'en avoir, il y a énormément de ce genre de personnages en tout cas.
Mais tu vas changer tout ça avec tes prochains films.
Je suis même pas sûr.
Ah merde. Bon, bah, on attend la suite alors.
Bah ouais. Bah,
super.
Merci Liam.
Ouais. Merci à vous.
D'avoir pris ces quelques minutes pour nous répondre. Et on va mettre un petit lien vers ton film.
Ce serait gentil, ouais, carrément. Merci beaucoup.
À la prochaine.
À la prochaine.
Salut Liam. Alors parlons maintenant, si vous le voulez bien, chers amis, de la place des femmes dans le métier de scénariste. Claire, Nathalie et Anna, quelle évolution de la place des femmes dans ce métier constatez-vous? Après, c'est encore une question à 5 euros, mais...
Alors, je sais pas. Alors moi, vraiment, j'avoue que j'ai pas du tout de vision globale du métier. Voilà, j'ai pas de chiffres ou de choses comme ça. Mais en tout cas, par rapport à ma propre expérience, moi, j'ai jamais eu l'impression que ça avait été un frein. Je suis appelée, voilà, je refuse des projets. Donc j'ai pas du tout l'impression d'être mise dans un coin ou d'être ostracisée. Je vais oublier ce terme. En tout cas, voilà, non, j'ai pas eu cette impression. Après, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il y a un plafond de verre, je n'en sais rien.
Plutôt bien.
Voilà, c'est plutôt bien. Cela dit, moi, j'ai eu l'impression qu'une différence s'était produite à partir du moment où je suis aussi devenue romancière. Et où là, tout d'un coup, il y a une lumière différente, puisque le fait d'avoir écrit des romans te met dans une position un tout petit peu différente d'auteur réellement, en fait, alors que quand tu es scénariste, parfois, en tout cas, ça met des années avant qu'on te considère comme un auteur. Et je pense que c'est ce mélange entre les deux et d'avoir proposé finalement un univers très personnel dans chacun de mes romans qui fait aussi peut-être qu'aujourd'hui on m'appelle justement peut-être pour faire des adaptations, des choses comme ça, et que ce sont ces deux casquettes-là qui ont mis une valeur ajoutée à mon travail, peut-être.
C'est vraiment pas plus difficile, comme on disait tout à l'heure, de travailler en tant que femme. Scénariste, en revanche, c'est vraiment difficile à partir du moment où on veut initier des projets. Et d'ailleurs, toutes les rares auteurs qui ont pu exercer le rôle de showrunner en France l'ont bien dit. Récemment, Fanny Herrero, évidemment, s'est exprimée à ce sujet. Donc effectivement, comme disait Claire, en fin de compte, les choses changent quand on arrive, soit parce qu'on a une autre casquette, soit parce qu'on commence à se faire un nom. Mais au départ, on peut pas vraiment considérer que les cartes sont les mêmes. C'est vrai qu'on nous cantonne à certains genres. C'est vrai que, c'est, par exemple, on va nous orienter très gentiment vers l'animation dès le début. C'est vrai que si on veut écrire un thriller, on va nous demander... Enfin bon, donc quand même, il y a quand même une phase de... On n'est pas considérés de la même façon au départ, selon moi.
Tu veux dire que les femmes savent mieux faire les personnages enfantin, quelque part. Enfin,
selon la légende urbaine, voilà, puisque c'est notre instinct
de femme. Ce sont des femmes enfants, c'est vrai, c'est ça.
Voilà, et que ça, c'est là, il y a vraiment une vraie difficulté. C'est encore plus sensible en tant que réalisatrice. C'est vrai que j'ai des amis cinéastes femmes qui veulent faire des films de par exemple des thrillers ou des films d'anticipation, et c'est très 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 difficile de porter ce genre de projet en tant que femme. Ça, c'est certain. Donc, les choses ont tendance à évoluer, mais je pense qu'on aurait tort de penser que tout va bien et qu'il n'y a pas encore à se remonter les manches pour plus d'égalité.
Tout à fait.
Toi, Anna, du coup, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que je n'ai pas assez d'expérience. Je suis débutante et du coup, je n'arrive pas à voir. Moi, personnellement, en tant qu'auteur, je n'ai pas l'impression d'avoir eu des difficultés liées au fait que je sois une femme, mais c'est sans doute... que c'est le début. Et aussi, c'est vrai que par contre, une fois par exemple qu'on présente mon film, etc., on voit qu'on est minoritaire quand même. Il y a ça.
Ouais, on nous demande de nous réjouir d'avoir 20% de femmes réalisatrices en France, mais il y en a quand même 50% de femmes dans les écoles de cinéma.
Et ouais.
Donc, selon moi,
ouais, y a un gap, ouais.
faut un petit peu quand même remettre les choses à leur place.
C'est vrai que nous remarquons que finalement il y a beaucoup d'hommes, on croise beaucoup d'hommes finalement, très peu de productrices femmes.
Voilà, pas que scénaristes, on parle de producteurs, réalisateurs.
Ouais, pour les techniciens, j'aurais voulu avoir une équipe paritaire, j'ai pas réussi, je m'en veux encore de pas avoir assez insisté. Mais en fait, trouver des chefs de poste et tout ça qui sont des femmes, c'est pas évident.
Mais comment vous l'expliquez du coup, ce manque de femmes dans les autres métiers aussi que l'écriture ?
Il faut savoir qu'en France, c'est considéré comme un risque financier supplémentaire, en fait, d'avoir une femme aux commandes. Quel que soit alors que ça soit, par exemple, pour écrire une série, que ça soit une femme réalisatrice, que ça soit effectivement une technicienne, mais chef de poste. Donc pourquoi ? Bah, je sais pas, c'est sociétal. Je pense que c'est une réalité dans tous les domaines professionnels, pas plus le nôtre.
Non, on est dans une société quand même profondément patriarcale, depuis très longtemps. Et à partir de là, les femmes, quand même, sont supposées, dans l'inconscient collectif, être plutôt à la maison en train de s'occuper des enfants, même si c'est pas dit clairement comme ça, et puis bien entendu ça a changé, mais ça reste quelque chose, ça reste quelque chose de présent, et c'est vrai. Et après, moi je pense aussi que c'est aussi dans l'éducation, et justement quand on parlait tout à l'heure des modèles féminins
forts.
Je pense que la culture peut apporter ça, et de se dire en tant que petite fille, j'ai pas besoin d'être une princesse et d'attendre qu'un prince vienne m'épouser et m'emmener dans son château, mais je peux peut-être moi être sur mon cheval et aller combattre le dragon moi-même. Et ben, ces choses qui ont commencé à changer dans la littérature, même jeunesse, etc., dans des personnages féminins qui commencent à bouger, Harry Potter, on en parlait aussi tout à l'heure, je pense que c'est de ça qu'ont besoin aussi les petites filles, les jeunes filles, pour se dire, j'ai le droit aussi d'avoir une carrière, j'ai le droit d'avoir des rêves, j'ai le droit d'avoir une quête personnelle et de devenir qui je suis sans forcément me définir par rapport à ce que la société ou l'homme qui tombera amoureux de moi ou la femme attend de moi. Voilà.
Et là, tout à coup, Claire, je replonge en enfance et je repense à ce livre pour enfants qui s'intitulait « Toutes les princesses vont à l'école ». Et c'est tout à fait ça, en fait. Voilà. C'était mon modèle féminin de l'époque.
Tiens, d'ailleurs, toi, on parlait de combattre des dragons. Dans Skyrim, tu joues une femme qui combat des dragons.
Moi, voilà, on parle d'un jeu vidéo, et moi, j'adore jouer des femmes dans les jeux vidéo. Mais je suis pas le seul.
C'est rare quand même. On voit beaucoup de mecs sur Internet qui râlent, qui disent « On m'a obligé à prendre un personnage féminin ».
Non, lui, il choisit.
C'est bien,
chouette, c'est trop cool. Bah voilà, c'est le mot de la conclusion, Mathieu.
Si on avait une petite question pour Nathalie, pour finir, sur ton site, tu consacres beaucoup d'articles finalement sur la place des femmes dans ce métier. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'essayer de changer des choses, et qu'est-ce que tu constates en retour ?
De toute façon, Scénario Buzz, d'une manière générale, c'est un moyen d'essayer de faire bouger les choses, en tout cas en ce qui concerne le métier de scénariste, mm-hmm. qui est de toute façon, homme comme femme, assez peu considéré en France. Mais c'est vrai que le combat pour la parité est venu se greffer à ce premier combat, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas être candide par rapport à ça, on ne peut pas être passif. On est bien obligé d'essayer de faire bouger les choses. Mm-hmm. Et pour ça, je pense qu'il faut informer, et notamment, il faut informer aussi le public, les cinéphiles, de cet état de fait. Il faut éduquer, en fait, comme disait Claire, donc ça passe par la fiction. À mon petit niveau, ça passe effectivement par ce blog.
Et à notre encore plus petit niveau, par ce podcast.
Tout à fait. Et moi, je vous propose de vous laisser le mot de la fin à chacune d'entre vous pour conclure ce podcast. Voilà, un petit truc à dire pour terminer sur ce sujet ou non, après tout.
Eh bien, Claire. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de pouvoir parler comme ça, avec flamme, enthousiasme, de sujets qui, à mon avis, sont importants et peu abordés. Donc, merci de nous avoir laissé la parole, d'avoir discuté avec nous comme ça. C'était l'honneur très enrichissant.
Où est-ce qu'on te retrouve, Claire ?
Où est-ce qu'on me retrouve ? Mon prochain livre sort en août. Ah. Voilà, mon quatrième et prochain livre.
A-t-il un titre ?
Alors, le titre est en travaux, mais on va dire que pour l'instant, ça s'appelle peut-être « Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull ?» Ce qui est un très long titre.
En effet.
Très bien, merci.
Et tes autres romans, tu peux nous en parler un petit peu rapidement Frère, notamment, qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Frère, c'est mon dernier livre qui est sorti il y a un an à peu près, qui est sur des poètes un peu méconnus, rémois du début du XXe siècle. Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, et c'est sur 11 jours de leur adolescence quand ils ont 17 ans et qu'ils souhaitent se confronter à la mort.
L'éditeur ?
Robert Laffont.
Nathalie, un petit mot pour finir.
Effectivement, merci pour ce sujet utile.
Merci à vous.
Ça fait effectivement très plaisir de voir en tout cas que cette problématique commence à ressurgir un petit peu régulièrement dans la presse.
On remercie Marie Servan-Bergy qui nous a donné le mot à l'oreille. C'est pas mal de parler de ça.
Ouais, merci à mon super agent justement, voilà. Qui me dit toujours non mais... Ok, c'est bien de parler de ça, mais voilà. Mais donc, effectivement, je pense que c'est plus on en parlera en fin de compte, et plus le message passera. Hein, à coup de marteau, s'il faut.
Mais j'ai l'impression que les jeunes générations, comme nous, sont plus réceptives.
Bien sûr,
ça
non, mais
plus,
c'est évident. Voilà. Moi, je reste très, très optimiste sur le fait que les choses vont bouger. Ouais. Ça fait aucun doute, de toute façon. Mais simplement, c'est notre responsabilité à tous, finalement, d'ajouter notre petite pierre à l'édifice.
Bon, on connaît un peu la réponse. Où est-ce qu'on te retrouve, Nathalie ?
Beaucoup sur les réseaux sociaux et sur mon blog scenariobuzz.com. Dans mon bureau, où je suis un peu assignée à résidence les prochains mois.
Sur Twitter, éventuellement
ou Twitter, Facebook, ouais. Instagram. Moi, je suis vraiment une Uber geek, donc en fait, on me retrouve à peu près sur tous les...
On mettra les liens dans la description du podcast.
Sur tous ces médias qui nous empêchent de travailler.
Exactement.
Eh bien, merci. Et toi, Anna, alors ?
Pareil, je voulais vous remercier pour cette émission très, très complète, je trouve, et très enrichissante. Et voilà, je voudrais ajouter qu'en fait, il faudrait faire ce genre d'émission aussi pour les questions de représentation des personnes homosexuelles, les questions de représentation des personnes non blanches, sur les ethnies, etc., comment sont représentées, quels sont les clichés, etc. Enfin, il y a encore plein de sujets comme ça sur les discriminations à aborder au cinéma. Effectivement, les personnes non blanches dans le cinéma français, c'est encore pas ça. Donc voilà. Je trouve qu'il y a encore du boulot à faire et qu'on pourrait parler
des femmes de plus de 50 ans. C'est Marina Tomé
aussi, ça, c'est vrai.
Aussi qui a lancé quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est une pétition ou quelque chose, mais pour montrer le manque de visibilité des actrices de plus de 50 ans à qui on n'offre plus de rôle. Et il y a un tunnel, donc ça s'appelle le tunnel des 50 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est Marina Tomé qui, en tout cas, a fait quelque chose autour de ça, qui serait à regarder, qu'on peut retrouver, je pense, sur Internet assez facilement. Et c'est très intéressant.
Chers amis auteurs, d'accord. Si vous avez une idée, un pitch de long métrage avec que des personnages féminins
de plus de 50 ans,
de plus de 50 ans, allez-y.
Non blanche et homosexuelle.
Et homosexuelle.
Moi, je veux bien l'écrire. Hein.
Carrément.
Où est-ce qu'on te retrouve, Anna ?
Alors, je vais faire un peu de pub. On retrouve mon premier et dernier, du coup, qui est une comédie musicale qui s'appelle Lorraine ne sait pas chanter, qui va être projetée bientôt à Saintes, donc en Charente-Maritime, si par hasard vous avez des auditeurs qui sont là-bas, et puis sans doute à Paris dans les semaines qui viennent.
Plus probablement à Paris.
Voilà. Et voilà, on me retrouve sur Twitter, @LucyInTheSky4, notamment.
Très bien.
Tout attaché, minuscule.
Exactement.
Il y aura des liens dans la description de ce podcast, voilà. Quoi qu'il arrive.
Et c'est bien le tunnel des 50.
Voilà.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve, comme d'habitude, le mois prochain pour ce fameux podcast anniversaire, Mathieu.
Ouais.
Alors,
ouais.
Quelle surprise tu nous réserves?
Je vais pas m'avancer.
Un gâteau au moins, c'est sûr. A priori, il y aura un petit gâteau sur la table.
Moi, j'aimerais dire merci à nos trois invités.
Ah ouais, un grand, grand merci. Parce qu'elles prennent du temps sur leur temps de travail pour venir nous voir un matin en plus. Donc, c'est super.
Leur travail qui est plus dur que nous, hommes.
Voilà. En plus. C'est pas simple.
Voilà, on culpabilise maintenant.
Il faut pas, surtout pas.
Eh bien, on se retrouve le mois prochain.
Au mois prochain.
Salut à tous.
Salut à tous. Salut.
Salut.
Ciao.
Merci, au revoir.
Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir.
Nous laisser un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 euro, vous nous aidez déjà énormément.
Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible.
Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.